de Serge Le Bekech, dirigé ce soir par Daniel Amiche, avec l'assistance de Victoria, puis de Jacqueline Lovenbruck, diffusé en direct mercredi 2 janvier de 18 à 21h, en différé jeudi 3 janvier 2002, excusez-moi, j'avais oublié qu'on était passé, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Oh, triste, triste était mon âme. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Eurolandais, Eurolandaise, bonsoir, bienvenue dans l'Euroland.
Le Roland.
Le pays où le miel et le lait coulent à flot.
La Londe, qu'est-ce que c'est que ça?
Bah ça y est, on y est dans l'Euro, on est tous des Eurolandais maintenant, non?
Je connais pas.
Alors ma petite Victoria, vous,
Roland, non.
Alors on n'est pas des Eurolandais alors?
À la rigueur, dans la zone.
Bon alors, alors soyons traditionnels, amis du trône et de l'hôtel, bonsoir.
Voilà, bravo.
Joyeuse et sainte année. Qui va pas être simple. J'ai l'impression que 2002 commence mal. Enfin, pour moi, elle commence très mal parce que j'ai une grippe épouvantable. Mais enfin, je suis quand même derrière le micro. Nous sommes en direct. Hein. Il est 6h04. 6h03, me dit Franck. Bah oui, mais là, on est à 4 dans le studio. Ah oui, il faut regarder.
Vous
voilà.
Regardez,
ah, c'est 6h03. Je regarde pas la bonne pendule. Voilà. Mais dans quelques secondes, nous serons à 6h04 quand même. Je précise. C'est pas que je veux remplir le temps parce que nous avons beaucoup de monde ce soir.
Comme
le temps passe. Ma chère Victoria, alors vous étiez un petit peu souffrante ces derniers temps. Vous pas vu beaucoup.
Ben non, j'étais partie.
Ah oui, vous étiez chez vos neveux.
Mais oui.
Ah, alors c'était pour...
Noël,
ah,
c'était
bah c'est bien. C'était bien.
C'était très bien, Noël.
La crèche
là-bas.
Était belle.
Oui, elle était très belle.
Il y avait les petits moutons.
Et
le bœuf.
Et la plus petite avec une idée en tête, c'est d'enlever le petit Jésus de la crèche parce qu'elle le trouvait très mignon.
Bah oui, bah ça, c'est, ça commence bien comme ça.
Et
quel âge a-t-elle la plus petite?
2 ans.
Ah oh oui, c'est encore à cet âge-là, c'est petit, ça croit des tas de choses. C'est mignon comme tout. Alors voilà, donc nous revoilà pour cette émission en l'absence de Serge Le Bekech. Alors je précise pour une auditrice qui m'a envoyé une lettre plus ou moins agréable pour me dire que je faisais le jeu du voleur chinois. Que petit à petit, je prenais de la place à Le Bekech. Moi, j'avais plutôt le sentiment que c'était le contraire. Mais enfin, bon, passons, ça, c'est pas très grave. Non, je ne cherche pas à prendre la place de Serge Le Bekech. Mais je suis très satisfait de la petite place qu'il me donne sous ses ailes puissantes. Voilà. Alors, ma petite Victoria, vous n'avez pas de message encore à nous donner. Vous n'avez pas une petite salutation de bonne année à faire à nos auditeurs parce que vous aimez beaucoup les auditeurs.
Je viens de recevoir un message qui dit « Les francs ont été remis en cours en 1792. »
C'est vrai.
« Alors que Victoria ne pleure pas trop sur les francs. »
Voilà, c'est un ami d'ailleurs qu'on salue. Alors, on lui souhaite à lui et à son épouse une joyeuse et sainte année aussi. Hein.
Oui, moi, on le salue, mais on trouve quand même que là, il exagère un petit peu.
Non, mais
nous avons lu son message.
Tout ça, ça va durer ce que dure l'héros. L'espace d'un moment, enfin dans 2-3 ans, ça on n'en parlera plus.
T'inquiète.
Mais ça tombe sous le sens, il faut réfléchir un peu. Hugues de Soicourt, vous qui êtes le directeur du Légitimiste et présent à cette émission, je vais ensuite présenter tous les auditeurs, tous les participants qui sont ce soir avec nous. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que ça va durer l'euro?
Mais d'abord, bonne année Daniel.
Ah bah écoutez, merci beaucoup. Oui.
Enfin. Est-ce que l'euro durera? J'avoue que je n'en sais pas trop, mais intuitivement je pense que l'euro part mal quand même. Puisque même sur c'est ce que nous évoquions tout à l'heure à table,
Que nous, nous parlons, excusez-moi de vous interrompre, il ne faut surtout pas qu'on se parle l'un sur l'autre. Et moi, j'ai tendance à beaucoup parler, vous me connaissez. Donc, nous parlons beaucoup à table. Nous échafaudons des plans, nous ourdissons des complots.
Notamment beaucoup de complots.
Et alors, au début, c'est assez soft. Et je veux dire qu'à la fin du repas, c'est que ça devient assez surréaliste, il faut dire quand même.
Oui, on peut lâcher cette épithète.
Oui, voilà, c'est assez surréaliste.
Mais
parce qu'on ne boit pas que de l'eau. Hein. Faut préciser quand même à nos amis auditeurs, on ne boit pas que de l'eau. Hein. Parce que je trouve quand même que le vin a meilleur goût que l'eau. Ben, face à chacun, voilà, chacun.
Avec modération.
Je précise également pour les auditeurs et les auditrices que Daniel ne mange pas que des pilules. Voilà. Contrairement à ce qu'un vin peuple pense.
C'est vrai, mais j'en prends beaucoup aussi.
Hélas.
Arrivé à mon âge.
Donc, oui, pour la durée de l'euro, j'avoue que mes compétences économiques sont assez faibles. Je constate simplement que l'immense majorité des prix Nobel d'économie ont jugé que c'était une aberration économique. En particulier, le seul prix Nobel français qui a dit largement, en long, en large et en travers, que c'était absolument impossible de commencer une unité monétaire sans avoir d'unité politique. Mais bon, enfin, manifestement, on a les hommes politiques que le monde entier nous envie et... Oui. Et donc nous avons les...
Nous sommes d'ailleurs prêts à les céder pour très peu d'euros. Si vraiment le monde nous les envie, oui. Vraiment on leur fera un paquet cadeau. Un peu comme les sachets de pièces qu'on a eu là,
je ne sais pas combien vaut la monnaie thaïlandaise, mais je suis tout à fait prêt à les céder même pour un centime de la monnaie thaïlandaise.
Tiens, c'est une bonne idée ça. Je ne sais pas du tout combien vaut la monnaie thaïlandaise.
Et je garantis d'ailleurs à tous les défenseurs des droits de la femme qu'il n'y aura plus de tourisme sexuel en Thaïlande dans ce cas-là.
À ce cas-là, oui, franchement, même le président tout nu sur un balcon, ça ne vaudrait même pas de payer un billet d'avion. Alors donc, je présente quand même nos amis qui nous font l'amitié d'être là ce soir, à part Victoria évidemment qu'on ne présente plus parce que c'est le houblon
c'est
de Radio Courtoisie. Elle est connue comme le houblon, disait le brasseur. Hein. Alors il y a donc Yves-Marie Adeline là qui est loin de là. Oui, là, c'est pas la peine de dire bonsoir parce que vous n'avez pas de micro de toute façon. Voilà. Mais qui a mis un casque sur sa tête. Je sais pas, il a peut-être peur de prendre des coups ce soir. Il a mis un casque. Il y a notre ami Jean.
C'est pas un casque, c'est les écouteurs.
Bah oui, bah, on appelle ça
un casque.
C'est pour mieux t'écouter, mon enfant.
C'est cela, oui. Alors nous avons notre ami. Alors faut bien parler dans le micro le plus près possible. Voilà, non, gardez le micro, ne lui passez pas. Nous avons notre ami Jean-Sylve de Ventavon qui vient nous parler d'un livre qui vient de faire paraître chez Lanor, s'appelle Soldats et Martyrs, vendé 1793-1795. Nous avons notre ami Guy Le Hideux, qui est monsieur bande dessinée de Radio Courtoisie. Guy, vous avez bien commencé l'année ?
Oh, très bien, mais au niveau de la bande dessinée, c'est pas terrible, terrible.
C'est pas terrible.
Hein.
Non, non.
Heureusement qu'il y a des livres pour la jeunesse.
Voilà, dont nous allons parler, puisque nous avons la chance d'avoir Fontaine Senior et Fontaine Junior, c'est-à-dire Louis Fontaine et Rémi Fontaine. On doit dire Rémi ou Rémi ?
Rémi. À Reims, on prononce Rémi, mais
on prononce Rémi,
chez nous,
hein.
On prononce Rémi.
On dit même, à Reims, on dit même Rémi. Voilà. C'est Rémi, comme s'il n'y avait pas de... Hein, c'est curieux. Bien. Alors qu'ils viennent nous parler de deux très beaux livres. L'un écrit à quatre mains, si puis-je dire, qui est Le Pharaon disparu. Et l'autre écrit à deux mains, encore que... Enfin bon, qui s'appelle Boussicaut, Maréchal de France. Tout ça édité aux
chez
éditions...
Clovis.
Voilà. Bonne maison, bonne petite maison.
C'est mon éditeur.
Pas franchement bolchevique. Hein, on peut pas dire que ce soit vraiment bolchevique chez Clovis. Hein. Donc alors très bien, j'espère que vous avez tous passé un bon réveillon de jour de l'an. Tout va bien, hein, dans cette province de Roland où nous habitons. Comment ça? Si, tout va très bien, tout va très bien. Il n'y a eu, écoutez, vous êtes vraiment d'une mauvaise foi épouvantable.
Je trouve que tout va très bien, mais c'est le mot d'après.
Il n'y a eu que 110 voitures de brûlées en Ile-de-France.
C'est rien,
c'est ce qu'a dit le préfet de, je sais pas, de la région,
c'est
enfin, je sais pas quoi. Oui. Il n'y en a eu que 110. Bah, 110, vous rendez compte, quand même, c'est quand même
extraordinaire. Le Neuquin est admirable.
Alors qu'on rentre en 2002, quand même.
Alors qu'on rentre en 2002, donc, ouais, quand même, il y aurait pu avoir une espèce de.
Flambée.
D'excitation, hein. Alors, le reste, on n'est pas capable de faire le compte de tout ce qui a brûlé, mais il faisait tellement froid, il faut dire, le 31 décembre, qu'il faut bien que tous ces jeunes se réchauffent. Oh, quand même. Et comment? Il n'y a plus de bras zéro dans les rues, vous avez vu, c'est fini. Les métros sont fermés. Donc les grilles sont, on ne peut pas les se réchauffer, donc il faut bien faire un peu de feu. Je ne dis pas pour manger des marrons ou pour se faire griller les saucisses, parce qu'ils ne sont pas très saucisses à ce qui paraît, mais bon, pour se réchauffer un peu les mains, hop, une boîte d'allumettes à 10 sous, enfin à 10 cents, et zoom! C'est intéressant. Donc, il y a eu, enfin, on ne sait plus. Alors maintenant, il y a un sport nouveau aussi.
Et ce matin, la Poste était en grève.
La poste était en grève.
Et
ça commence. Ça c'est normal. Encore nous sommes dans la normalité. Ce qui est exceptionnel, c'est quand elle marche. Ce qui est en grève, c'est tout à fait normal. Et alors donc un nouveau sport national qui est très intéressant, c'est de tirer au pistolet sur les agents de police. Alors j'ai appris ça, j'étais quand même bon, ça va. Il a été blessé légèrement, il a eu l'œil crevé. Oui, c'est très bien. Il en a blessé 3, dont un quand même avec un œil de moins. Et alors voilà, ils ont fini par l'arrêter. Voilà, c'est quand même tout ça, c'est intéressant. Oh bah peut-être pas tout de suite quand même. Peut-être pas tout de suite parce que là quand même il y a eu parce qu'il a fallu nettoyer tout, c'était un peu sale par terre, donc voilà, il a fallu faire des tas de papiers, des tas de rapports. Hein. Voilà, donc ça c'est un sport nouveau, ça je ne savais pas. Enfin, des fois, on leur lançait des objets, des pierres, des machines à laver, des vieux réfrigérateurs, enfin des tas de choses, beaucoup de chaînes hi-fi volées, tout ça, des lecteurs de tout ça volé, boum. Alors, ça fait mal quand on prend. Mais alors là, des coups de pistolet, quand même, c'est nouveau. Enfin, on vit une époque épatante, comme dirait quelqu'un que je connais, oui, qui travaille dans un journal auquel Rémi Fontaine a la faiblesse de participer. Hein, voilà, comme diraient nos amis de présent. C'est très bien, je trouve que. Et alors, donc. Les journaux ont commenté ça en disant bon bah c'est les exactions traditionnelles, hein. C'est traditionnel, c'est rentré dans les mœurs. C'est rentré dans les mœurs. Enfin, on met du gui au-dessus de la tête, on met du houe, et puis alors on brûle les voitures. Tout ça, on est dans la grande tradition de la nouvelle année.
C'est pour améliorer la circulation.
Parlez bien devant le micro.
C'est pour améliorer la circulation.
15 ans, vous faites de la radio.
Je suis assez près de mon micro.
Vous avez une voiture, vous ?
Oui.
Ah ben, vous l'avez inifugée, non, ce que vous m'avez dit l'autre jour. Non, non ?
Exactement.
Ben voilà, donc alors on conseille à nos auditeurs, surtout, il y a de très bons produits qui existent, il faut inifuger les voitures. Alors, ils peuvent y aller avec leurs allumettes, crac, 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 là.
Ça ne prend pas.
Enfin, c'est épatant. Hugues de Soicourt, c'est épatant quand même, non ? Vous ne trouvez pas qu'on vit une époque épatante ?
J'ai toujours été pour le chauffage. Surtout le chauffage urbain.
Alors, vous avez vu partout dans toutes les 40 capitales d'Europe, à Londres, qu'elles soient dans l'Euroland ou pas dans l'Euroland, à Londres, à Madrid, à Berlin, tout ça, on a fait des grands feux d'artifice, tout le monde est...
Mais de quoi vous vous plaignez ? On en a fait chez nous aussi.
Ah bah, mais les feux d'artifice étaient quand même très limités à certains quartiers sensibles.
Hein.
Paris, capitale du monde, la ville lumière.
Bengale, d'ailleurs, le terme n'est pas tout à fait adéquat.
Oui, il paraît qu'il y en a aussi. Hein. Il paraît qu'il y en a aussi. Alors donc, Paris, ville lumière, capitale du monde, avec je ne sais pas combien d'étrangers, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols, il y a plein de monde. Vous avez dans le métro, quand vous prenez le métro, quand il marche, les gens parlent quand même plus italien et espagnol que le tamoul. Le tamoul, c'est en dehors des périodes de fêtes. Et alors, il n'y a rien eu, dites-donc. Moi, je pensais qu'avec avec notre bon maire de Paris, M-A-I-R-E, hein, je dis, parce que des fois il y a des gens qui comprennent pas très bien, donc le maire de Paris, monsieur, comment s'appelle-t-il déjà ?
De la Noé.
Alors je pensais qu'alors on allait avoir quand même des soirées gays, enfin des soirées paillettes et strass, que ça allait péter partout. Pas un feu là.
Mais attendez,
blackout terrible, on se serait cru dans les pires années de notre histoire, les plus sombres, les blackouts.
J'avoue que j'ai quand même bon espoir que l'année prochaine se passe mieux, puisque on aura quand même des rentrées grâce aux amendes aux propriétaires de chiens qui laisseront aller leurs quadrupèdes sur les trottoirs. Donc j'ai quand même très bon espoir que l'année prochaine soit une année épatante.
Je vais vous dire, mon cher Soicourt, ce qui me déçoit chez vous, c'est que vous êtes d'une naïveté épouvantable. Parce que si vous pensez qu'il y a un homme politique qui va taxer les crottes de chiens, alors là, c'est vraiment... Non mais là, franchement, c'est beau la jeunesse. Non, mais... C'est beau la jeunesse, c'est plein d'espoir.
Moi, je note simplement une chose. Cet homme s'appelle Delanoë. Donc, j'imagine qu'il a un lien de parenté avec le propriétaire de l'Arche.
Oh, bravo, voilà. Alors, le premier mot d'esprit, je vais en faire d'autres, hein, si vous voulez, parce que j'en ai toute une réserve, là. J'ai acheté des papillotes, dedans, il y a des petites blagues, là, je les garde précieusement, puis d'un année sur l'autre, je les ressors. Alors ça, c'est très, très, très bien. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir, les crottes de chien avec l'arche ?
Mais, vous savez pas.
Faut pas archer dedans, c'est ça ? Allez-y, non, remettez-vous. Vous avez arché dans la... Oui ?
Oui.
Mais... Là, c'est tout, donc il n'y a pas de relation directe.
Enfin, si ce n'est que c'est des animalcules dans les cas.
Bon, c'est bon. Tout ça est excellent. Enfin, je vois que vraiment, ici, c'est la radio du bon goût. ou de la bonne langue française. Enfin, c'est effrayant, c'est effrayant. Oui, ma petite Victoria. Ah non, non, mais ne regardez pas comme ça. Je vois que vous avez un paquet de messages, et vous me dites rien.
Mais non, mais
bien.
Non.
Bien, alors j'espère que nos amis auditeurs, enfin ceux qui se sont manifestés, parce que j'avais promis... c'était il y a trois semaines, je sais plus, hein, d'envoyer donc un petit papier que m'avait fait l'abbé Vartel dans mon petit journal qui s'appelait le journal du 15e centenaire. Alors ça va pas nous rajeunir, c'était en 96-97. Alors j'ai reçu énormément de demandes. Je crois que tout le monde a été servi, j'espère n'avoir oublié personne. Les derniers malheureusement ont eu une photocopie parce que j'étais pas, il n'y avait plus de journaux. Et alors je me propose de passer des extraits donc de l'émission que j'avais réalisée avec l'abbé Vartel comme grand témoin le 30 août 2000. Il y a des passages qui sont tout à fait savoureux. Donc il y a tout un montage à faire, c'est un petit peu long, j'ai pas eu le temps, je m'en excuse, mais à coup le pas. Donc ce sera pour le 30 janvier, puisque je crois que ce sera ma prochaine émission, le 30 janvier. Alors, on fera un petit montage comme ça pour montrer que on pense toujours au cher abbé Vartel. Voilà, alors Victoria, rien, non, ça ne veut
non,
pas,
non,
vous voulez pas lire...
Ah
bon, très bien, très bien. Alors nous allons commencer par notre camarade Jean-Cyves de Ventavon, qui va bien s'approcher du micro. Il a un micro vert, donc c'est la couleur de l'espoir. Hein, une couleur de l'espoir. Il y a du jaune, il y a du vert, il y a du noir, il y a du... C'est un marron, vous, tiens.
Oui.
Il est pas glacé, celui-là, j'ai l'impression. Hein.
Non.
Non. Très bien. Alors, Jean-Cyves de Ventavon, vous venez nous voir pour un nouveau volume qui est sorti chez Lanor, aux éditions Fernand Lanor.
Oui.
Qui est votre éditeur habituel. On peut dire, enfin...
Oui, enfin, l'un de mes éditeurs habituels.
Pas exclusif, mais...
Pas exclusif, mais enfin...
Fréquent, quand même. Hein.
Voilà, fréquent. Mais je publie aussi chez... À la librairie française, c'est-à-dire la maison d'édition que dirige M. Soulas.
Oui.
J'ai deux bouquins qui vont sortir dans les mois qui viennent, chez M. Soulas.
Alors, celui-là, c'est l'édition L'Encre,
c'est L'Encre, oui. Donc, je vais sortir à L'Encre deux bouquins dans les mois à venir. Une petite histoire de la Grande Guerre de Vendée et une petite histoire des Juifs en France. Non, pas une petite histoire des Juifs de France, n'est-ce pas, mais une petite histoire des Juifs en France. Sujet périlleux, mais qu'il m'a bien amusé de traiter.
Bon, alors, écoutez, on va parler de celui-là,
oui,
si vous voulez bien, parce que bon, on va parler des soldats et martyrs.
Voilà.
On va rester
oui,
chez nous.
Oui, encore.
Bon. Alors voilà, soldats et martyrs, Vendée, 93, 1793-1795, de notre ami Jean-Cyves de Ventavon, chez Lanor. Alors, il y a toujours, ils mettent pas les prix chez Lanor, c'est un peu casse-pied. Alors, c'est pas le premier livre que vous avez fait sur les questions de la Vendée.
Ah non, je suis un vendéologue. Avant d'être un historien généraliste, enfin je suis un historien généraliste, mais
la Vendée
spécialisé dans l'histoire des guerres de Vendée.
Alors je rappelle que
et de la chouannerie.
Vous avez déjà édité trois livres sur la question de la Vendée et de la chouannerie. D'ailleurs, on vous a reçu, je crois, pour les trois. Autant que je me souviens, je crois vous avez
reçu. Oui, bien sûr.
Il y avait Jean Chouan,
oui.
Le paysan rebelle, donc chez Albatros. Il y a eu Jacques Catelineau, le premier généralissime de l'armée catholique et royale, qui a reçu le prix des écrivains de l'Ouest, chez Lanor. Et puis également le Louis de Frotté, le Lion de Normandie, également chez Lanor.
Tout à fait.
Alors, pourquoi avoir eu envie ou avoir eu l'idée de refaire un ouvrage sur les soldats et martyrs de la Vendée?
Parce que je crois que l'histoire des guerres de Vendée, et singulièrement de la première guerre de Vendée, puisque mon livre traite surtout de la première guerre de Vendée, je crois que l'histoire des guerres de Vendée elle ne sera jamais assez racontée et assez connue de nos contemporains. La République a depuis toujours occulté le sujet, et on la comprend d'ailleurs lorsque l'on veut bien se souvenir des atrocités que les Bleus ont commises en Vendée, des atrocités qui aujourd'hui relèveraient du crime contre l'humanité, ce fameux crime de l'humanité que l'on condamne qu'à un seul sens. J'évoque assez longuement dans ce livre les colonnes infernales du fameux général Thurot, et je donne la liste des martyrs des Grands Lucs sur Boulogne, qui ont été victimes de la barbarie, le mot est trop faible, de la sauvagerie des champions des droits de l'homme. Et l'on s'aperçoit qu'il y a parmi ces victimes des enfants de 2 mois, d'un mois, de 6 mois. Et je passe d'autres forfaits que les républicains avaient l'habitude de chauffer des fours à pain à blanc et d'y enfourner vivants les Vendéens et les Vendéennes. Ils avaient l'habitude d'ouvrir le ventre des femmes enceintes et de piquer le bébé au bout de leur baïonnette. Ils avaient l'habitude de porter, de remplir de poudre la nature des femmes vendéennes et d'y porter le feu. Ils avaient l'habitude aussi de tanner la peau des cadavres vendéens. Il y avait en France 3 tanneries de peaux humaines. Mais ça, bien sûr, on n'en parle pas. On parle des prétendus savons faits par les nationaux-socialistes de la Grèce juive, mais on ne parle pas de ces atrocités-là qui, elles, sont bien réelles. Enfin, voilà, en gros, pourquoi je pense qu'il faut toujours en parler, toujours parler des guerres de Vendée et rappeler que cette république que nous subissons depuis trop longtemps a été fondée dans le sang, dans le bruit et la fureur, le bruit des innocents qu'on assassinait et la fureur des brutes qui les assassinaient.
Qu'est-ce qui a provoqué le soulèvement de ces Vendéens? Alors c'est un soulèvement qui va prendre des allures militaires, mais qui est un soulèvement populaire, enfin, on peut dire même paysan, en fin de compte.
Oui, bien entendu. C'est-à-dire, dès le début de la Révolution, dès les premiers décrets, les premières lois, de la monarchie constitutionnelle, parce que la Révolution, c'est bien la monarchie constitutionnelle qui l'ouvre, il y a des mouvements de protestation dans toutes les provinces, et ça aussi, on ne le dit pas assez. L'Alsace bouge, la Provence bouge, la Catalogne bouge, l'Ouest, bien sûr, bouge, l'Auvergne bouge, jusqu'à la Corse, qui bouge, et il y a encore ce mouvement qui va s'appeler la Crocetta, parce que les insurgés portent une petite croix au revers de leur veste. Il y a donc partout dans la France des mouvements d'opposition. Mais la monarchie est toujours debout, c'est toujours le roi qui règne, même s'il signe à contre-cœur, forcé otage de la Révolution, les décrets et les lois que l'on applique. Il y a quand même, c'est la signature du roi. Il y a donc le vieux respect atavique qui empêche les Français contre-révolutionnaires de vraiment prendre les armes. Il y a malgré tout des mouvements armés qui vont précéder le grand mouvement de mars 93. Il y a bien sûr le fameux colonel Armand, le marquis de la Rouerie, qui fonde l'association bretonne. Association bretonne qui a pour vocation de grouper, pas de grouper, de recruter les cadres et les soldats qui, dans l'esprit du marquis, seront les membres de la future armée qu'il souhaite mener contre la Révolution. Mais bon, il va mourir en apprenant la mort de Louis XVI.
Il est mort de saisissement.
Il est mort de saisissement. En apprenant la mort de Louis XVI, l'assassinat légal de Louis XVI, mais, et ça on ne le dit pas non plus assez, mais cette association a à la fois recruté des hommes, officiers et soldats, mais a su calmer les ardeurs paysannes. Parce que la Rouerie pensait qu'il fallait attendre que les armées coalisées émigrées entrassent en France de façon à ce que les troupes républicaines soient prises entre deux. Malheureusement, il y a eu la prétendue bataille de Valmy, et bien sûr, ça a avorté. Le marquis a repoussé l'insurrection prévue pour le mois de, je ne me souviens plus exactement la date, enfin prévue pour le mois de janvier, peut-être, me semble-t-il, pour le mois de janvier. Et puis, il y a la mort du roi, la mort de la Rouerie, et rien ne se passe. Mais il y a déjà eu ce mouvement, il y a déjà eu ce... Et à l'intérieur de l'association bretonne, se sont rencontrés quelques chefs vendéens. Alors on ne peut pas dire que la Rouerie ait été l'initiateur de cette guerre de Vendée, mais il y a quand même eu une espèce d'embryon de soulèvement, une volonté de soulèvement dans cette association. Il faut aussi souligner que cette association a calmé les ardeurs populaires, comme je viens de le dire tout à l'heure. Alors il y a donc la Rouerie, il y a Jean Chouan, bien sûr, qui prend les armes, au moment de la conscription, de la levée.
C'est
le
fameux décret de la Convention.
Décret de 300 000 hommes, qui va être l'un des motifs de l'insurrection. Il y a le soulèvement peu connu mais important du marquis Baudry d'Asson et de l'ancien maire de Bressuire, de Louche, qui ont marché avec 30 000 paysans, avec 8 000 paysans, pardon, 30 000, non, avec 8 000 paysans contre Bressuire. Mais ça a été brisé d'une façon abominable. Enfin, il y a eu donc plusieurs mouvements qui ont pris. Puis alors, bien sûr, il y a ce décret que vous venez d'évoquer, ce décret de mars 93, février 93.
La patrie est en danger.
La patrie est en danger et 300 000 hommes sont demandés. Alors à ce moment-là, cette population qui a freiné, qui a rongé son frein, après à la mort du roi, au décret de la constitution civile du clergé, ça aussi c'était un motif de colère. Bon, on s'est calmé, on a attendu, mais alors là, maintenant, on leur demande à ces gens-là de prendre les armes pour soutenir un régime qu'ils abhorrent. Ils n'en peuvent plus, ils ne veulent pas, et ils prennent les armes.
Il se soulève.
Il se soulève.
Est-ce que vous pensez que évidemment, refaire l'histoire n'a pas beaucoup de sens, et c'est même plutôt insensé, mais est-ce qu'il y aurait une chance pour que cette insurrection aboutisse à quelque chose de positif? C'est positif, puisque la mémoire nous en reste, et nous vénérons toujours la mémoire de ces combattants de l'Ouest, mais est-ce que la chose était possible, ou est-ce que vraiment les révolutionnaires étaient suffisamment établis et suffisamment puissants pour empêcher toute contre-révolution?
Ah non, je ne pense pas, encore qu'il soit, comme vous le dites, tout à fait impossible de faire l'histoire. L'urologie n'est pas possible. Mais je crois que si les chefs vendéens, si l'état-major... Quand je dis vendéen, j'ouvre une parenthèse. Quand je dis vendéen, c'est impropre, parce qu'il ne s'agit pas des vendéens, des habitants du département de la Vendée. Mais quand on parle des vendéens de la Grande Guerre de Vendée, il faut mettre des guillemets s'il s'agit des Angevins et des Poitevins, et des gens du pays de Ré, c'est-à-dire de la Bretagne de la rive gauche. Si les chefs vendéens s'étaient disputés, querellés perpétuellement, s'ils s'étaient mieux entendus, il est possible qu'à la grande époque de la Grande Armée, il eût été possible que cette Grande Armée marchât sur Paris. Ça, c'était tout à fait envisageable, c'était tout à fait possible. Mais bon, tout le monde ne souhaitait pas marcher sur Paris. Certains voulaient passer en Bretagne pour travailler la province, comme ils disaient. une province qui s'était aussi soulevée au mois de mars, mais qui avait eu, qui, là, l'insurrection a eu les reins brisés par Canclot. Par Canclot. Et donc, certains voulaient travailler, insurger la Bretagne. D'autres voulaient prendre en port de façon à ce qu'une escadre anglo-émigrée puisse débarquer. Et d'autres, finalement, voulaient, comme je viens de le dire, marcher sur la capitale. Sinon, il est curieux de voir comme ces querelles qui divisent aujourd'hui l'opposition nationale divisaient déjà de la même façon les chefs royalistes. Songez que le général Marigny, qui était le chef de l'artillerie de la Grande Armée catholique et royale, a été fusillé par ses propres frères d'armes. C'est fabuleux, c'est incroyable.
Est-ce que c'est pas dû en fait à une réalité toute bête et triviale, à force d'être évidente? C'est le fait que tous ces généraux des armées, l'armée catholique et royale vendéen, étaient individuellement des gens de grand talent, de grande capacité, de grand courage, mais qu'il leur manquait physiquement, réellement, un chef légitime qui eût pu arbitrer,
oui,
entre les différentes personnalités. Je crois que c'est le roi a manqué. Le roi
oui,
a manqué.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout le monde... les chefs, qu'étaient-ce les chefs? C'était 80% de Hobro, encore que Lescure et Denisant. Que Lescure et Denisant, voire Laroche Jacquelin, aient été d'assez grands seigneurs, c'était donc pour les autres 80% des hobereaux et les paysans, et 20% de paysans à peu près. Enfin, et ces hobereaux se sentaient tous tout à fait dignes de commander la Grande Armée. Ils ne voyaient pas pourquoi ils s'inclineraient devant l'un de leurs pères. Et Talmont, qui était lui alors un très grand seigneur, que j'oubliais de nommer, Dieu sait que Talmont était un homme extraordinaire.
Qui a été tué dans des conditions
abominables. Eh bien, Talmont, lorsque l'on a élu comme généralissime Laroche Jacquelin disparu, M. Fleuriot de La Fleurière, qui était tout à fait un brave homme, mais qui était un petit gentilhomme sans relief et sans illustration, le prince de Talmont, qui était lui en la Trimouille, c'est-à-dire l'une des premières familles du royaume, son père était le troisième père laïque du royaume, c'était donc un très grand seigneur. Eh bien, Talmont, qui avait supporté de mauvais cœur de beir à la Macatlino, de beir à Adelbé, de beir à la Roche Jacquelin, n'a pas supporté de se trouver sous les ordres de M. Fleury de La Fleurière. Il est parti. Il est parti rejoindre dans le Maine Jean Chouan, qui était l'un des serviteurs de sa famille. Voilà.
J'en reviens, c'est ce qui a manqué, je pense, au soulèvement de la Vendée,
seulement
de la Vendée, mais au soulèvement de la contre-révolution.
Oui, alors ce qu'il lui fallu, c'est qu'un prince...
Aucun prince sur
place. Un prince, j'entends un prince du sang, un prince vienne se mettre là, mais ça c'est un peu inexplicable. Que Louis XVIII ne soit pas venu, c'est tout à fait normal. Le roi, et puis il n'était pas monté difficilement à cheval, il commençait déjà à être travaillé par ses gouttes, il était donc Louis XVIII, mais on ne comprend pas pourquoi Artois n'est pas venu. Artois ou l'un de ses fils.
Et c'est pas par manque de courage.
Ah non, non, non.
Il y a eu quelque chose
de
très très curieux, hein, très curieux.
Non.
En fait, il y avait deux structures parallèles, parce qu'il y avait des réseaux, effectivement, des réseaux d'information pour les princes en exil, dans l'émigration. Et puis il y avait en même temps ce mouvement populaire fort qui aurait pu être sans doute doublé, quintuplé, décuplé par la présence d'un prince.
C'est-à-dire, le Louis XVIII, lui, a pensé assez vite qu'il fallait une solution politique, entre guillemets, plutôt qu'une de préférence à une solution militaire. Mais Artois, lui, était tout à fait favorable à une opération militaire. Alors on ne comprend pas pourquoi il n'est
c'est
pas...
La solution politique,
il n'a pas débarqué.
Il fera l'attendre jusqu'à 1814.
Ah oui, bien sûr.
Que la parenthèse va s'enfler.
Bien sûr.
Et que on va encore les Français vont encore perdre 1 million de personnes
pendant l'épisode
de l'Empire. Alors, je sais que ça plaît pas beaucoup quand j'ai du mal de l'Empire, parce que des fois, j'en reçois des messages assez acrimonieux, acrimoniques, acrimonistes, acrimogènes. C'est ce qui fait pleurer, les critiques acrimogènes. Non. Alors, vous parlez, vous qui êtes à rien du tout, vous parlez de Napoléon. Oh, je suis désolé, mais enfin, moi, j'ai aucun respect pour le personnage.
Non, bien entendu.
Je ne veux pas l'avoir. Donc, bien sûr, c'est très beau, les uniformes chamarrés, tout ça.
C'était un génie soldat, mais un mauvais génie. Il y a des mauvais génies, il y a de bons génies et de mauvais génies. C'était un mauvais génie.
On en a connu d'autres.
Oui.
Juste un petit commentaire à Hugues de Sacour avant qu'il s'endorme totalement, parce qu'il est tranquille au chaud dans son fauteuil. Bon, peinard. Est-ce que vous partagez ce sentiment que j'ai exprimé ou pas? Est-ce que c'est pas l'absence du roi ou de celui qui représente légitimement le roi qui empêche de fédérer des forces considérables? Alors c'était vrai à l'époque de 93, puis ça peut l'être aussi encore aujourd'hui.
Oui, moi c'est surtout aujourd'hui que je pensais. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les martyrs de Vendée, mais je pense que la première des admirations qu'on leur doit, c'est d'éviter de recommencer systématiquement les mêmes erreurs que celles qui ont été faites à l'époque. Et je vois effectivement pas d'autre solution que la présence de la contre-révolution incarnée, qui est le roi légitime. Qu'on le veuille ou non, en France, la contre-révolution, c'est le roi légitime. Alors,
c'est dangereux pour lui aujourd'hui. Ça l'était déjà à l'époque. La preuve, c'est que Louis XVI, bon, passons.
C'est effectivement très dangereux pour lui, mais en même temps. À la limite, il n'a d'intérêt que parce qu'il est ça. Bon, les Capétiens sont une famille plus qu'honorable, évidemment, mais dans l'état,
le moins qu'on puisse dire,
c'est le moins qu'on puisse en dire. Mais dans l'état actuel des choses, un Capétien n'est vraiment digne de ce nom qu'en tant qu'il prend la tête de la contre-révolution. À la limite, il n'a d'intérêt que pour ça.
Oui,
comme aurait pu dire Georges Marchais, le bilan est globalement positif quand même des Capétiens.
Oui, mais vous voyez, aujourd'hui. Le contexte n'est pas tout à fait le même. D'abord, la fin du XVIIIe siècle, est une France chrétienne, catholique. Et c'est une France qui ne dissocie pas le roi de la nation. La nation, je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais la nation est quand même un vieux mot, puisque dans les vieilles chroniques, on lit qu'à Bouvines, c'est la nation française qui a repoussé l'ennemi. Donc nos aïeux de cette époque ne dissocient pas Dieu du roi, c'est-à-dire de la nation, puisque le roi et la nation se confondent. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. La France est malheureusement devenue une terre de mission. Cela dit, vous avez des Français, je crois beaucoup de Français qui ont perdu la foi, mais qui, au demeurant, sont nationalistes, aiment leur pays et s'insurgent contre la République. Alors je crois, pour ma part, que vouloir restaurer immédiatement la monarchie chrétienne telle que nous la connaissons et telle que nous la souhaitons, chercher à rassembler autour de la monarchie chrétienne nos compatriotes, me semble extrêmement difficile. Je crois qu'il faut plutôt essayer de rassembler autour de l'idée nationale des Français qui sont hostiles à la République et par le biais, si Dieu le veut, de l'instauration d'un régime national autoritaire et hiérarchisé, ramener le roi, qui à ce moment-là pourra revenir comme pacificateur. Sinon, je suis tout à fait, bien sûr, il faut parler du petit Jésus, bien on en parlera non plus jamais assez. Mais encore une fois, nous sommes en l'an 2002 et aujourd'hui, on risque de braquer les gens à vouloir toujours parler du bon Dieu. Une fois qu'on a dit une bonne fois que le roi était roi par la grâce de Dieu, bon, et ben ça y est, on l'a dit, c'est fini, mais il ne faut pas perpétuellement ressasser. Nous allons lasser nos contemporains et nous ne réussirons pas à ce que nous voulons réussir.
Alors, Jean-Cyde Ventabon, si vous le souhaitez, je rappelle que nous étions en écoute. Jean-Cyde Ventabon qui a parlé de son dernier livre, Soldats et Martyrs, Vendée. 1793-1795, édité chez Fernand Lanor. Je sais que Hugues de Soicourt voulait faire un commentaire. Et je pense aussi qu'Yves-Marie Adeline, là, qui lui aussi tranquillement au chauffant du studio, aimerait bien faire aussi un commentaire. Alors,
il n'a pas de micro.
Ben, vous lui prêterez un petit peu le vôtre, ma petite. Et puis après ça, vous passerez pour les. Voilà, ben, gardez votre micro. Surtout, parlez bien devant le micro les uns et les autres. Oui, on se partage les micros ici. Nous sommes des partageux. Voilà. Allez-y, mon cher Soicourt.
J'avais simplement deux types de remarques. Le premier, c'est qu'on a malheureusement, je dis malheureusement parce qu'effectivement, ça me paraîtrait beaucoup plus facile d'arriver à un régime autoritaire national sans parler du roi. Mais malheureusement, en France, on n'a jamais vu de régime national durable en dehors de la présence du roi. Donc c'est le premier élément de remarque que j'avais à faire. Et puis le deuxième élément, c'est que je crains que dans l'état actuel des choses, le problème ne soit pas tellement de lasser nos contemporains en leur parlant de Dieu ou d'un état chrétien, mais plutôt au contraire que l'absence complète du terme état chrétien qui résonne dans leurs oreilles. Et je vois pas beaucoup d'hommes politiques, de personnalités qui aient une légitimité ou une légalité en France, que ce soit des académiciens, des généraux ou Dieu sait quoi, je n'en vois pas beaucoup qui se revendiquent d'un État chrétien, et à plus forte raison d'un État monarchique chrétien.
Pardon, oui, je me permettrai de ne pas être tout à fait d'accord. Il y a un mouvement français qui ne craint pas, lors de ces grandes réunions, de faire officier la messe tridentine, qui fait des références à la vocation chrétienne de la France.
J'entends bien, on entend peu, même dans ce mouvement, dans le mouvement dont vous parlez, on entend peu la référence à un État chrétien. Je ne pense pas que le problème, ce soit que nos contemporains soient saturés de la référence à l'État chrétien.
Je crois qu'il faut surtout aujourd'hui parler politique avant de parler religion. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de religion. Pas du tout. Mais bon, laissons les bons prêtres en parler. Ne cherchons pas. Contentons-nous, nous, comme on dit un peu sottement, de faire de la politique.
De cela, je suis entièrement d'accord, tout en sachant que notre politique est une politique aussi religieuse.
Ah oui, non, mais encore une fois, on le dit. Une fois, c'est fini. On ne revient pas perpétuellement dessus.
La pédagogie, mon cher Jean, vous le savez, est faite
de
répétition.
Oui, enfin.
Alors, il y a une chose sur laquelle j'aimerais peut-être, avant de donner la parole à notre ami Marianne, et peut-être pour lui préparer les propres réflexions, commentaires qu'il peut faire sur ce que vient d'être dit, on sort pas du tout du livre, hein. Non, là, on ne fait pas, encore une fois, nous ne parlons pas. Encore qu'il y aurait beaucoup d'intérêt à parler des fresques de Lascaux, qui est une chose absolument admirable, mais je crois que là, on est quand même plus dans une thématique moderne et contemporaine. Je crois que ce qui s'est passé en Vendée, vraiment nous parle encore beaucoup plus directement. C'est clair que la problématique qui est posée à ce moment-là, c'est une problématique qui se pose aujourd'hui. Alors, vous disiez tout à l'heure, en substance, hein, je ne vais pas répéter toutes vos paroles, mais qu'il s'agissait de réunir tout ce qui était national, enfin tous les nationaux. Alors, moi je me pose la question et je partage un peu le point de vue d'Yves Marie-Lyne, je vais vous dire pourquoi, parce que je vais pousser un petit peu plus loin le bouchon. Je crois que avoir cette position, c'est peut-être arriver à ce qu'on a appelé le compromis nationaliste, dont Adeline va peut-être dire deux mots. Voilà, il faudrait pas que vous touchiez, mon cher Jean, ne touchez pas votre micro, parce que sans quoi vous allez voir. Ça s'entend, hein, on a l'impression que je vois ce qui se passe. Le compromis nationaliste, arrive à des aberrations, et on le voit aujourd'hui avec un autre compromis que j'appellerais le compromis souverainiste. Où on voit en fait, au nom de la défense de l'identité nationale, on voit la mise absolument raflée par un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Chevènement, qui est devenu une espèce de la coqueluche des médias, la coqueluche des sondages, la coqueluche de beaucoup de nos amis d'ailleurs, qui comme de gentilles alouettes se laissent prendre au miroir du même nom, et finiront dans l'escarcelle du chasseur intelligent. c'est ça, j'ai un petit peu peur de ça.
Oui, mais écoutez, oui, bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'il fait, parce que Monsieur Chevènement dit qu'il fait jour à midi qu'il faut que nous disions nous qu'il fait nuit. Ce serait stupide. Je crois que nous sommes en train de perdre notre indépendance. Vous allez me dire, moi, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de souveraineté sans roi. Là, je ne suis pas d'accord du tout. La France existe, le roi n'y régnant pas. Le roi, la France n'est pas, nous ne sommes pas des républicains, la France n'est pas une idée. La France est quelque chose de concret, quelque chose de réel, quelque chose fait de chair et de sang. C'est le franc actuel. Ouais, le franc, on n'en a rien à faire, c'est la République, c'est la... Je regrette, c'est quand même une marque de d'identité nationale qui disparaît.
Mais ben là, on n'a plus le franc, c'est
non,
fini.
Maintenant,
on n'a plus le franc, on n'a plus d'armée, on n'a plus de politique étrangère, on n'a plus de diplomatie.
Voilà.
Bon, alors je veux dire, je ne sais pas ce qui reste de la France. Moi, à mon avis, la France, elle est morte depuis longtemps.
Non, je crois que la France...
On vit sur une hystérésis.
Non, la France...
Pour moi, la France est là où est le roi, là où est la France. Donc, qu'il soit à Madrid ou en Patagonie, c'est là où elle est, la France.
Ah,
parce que pour l'instant,
non.
La France...
La France, cher ami, c'est la cathédrale de Chartres, c'est la cathédrale de Reims, c'est la cathédrale de Paris.
C'est
Versailles, c'est nos petits villages, nos vieux clochers.
C'est comme les pyramides de Khéops ou de...
Bon,
c'est fini, ça n'existe plus.
La France est éternelle tant que les choses humaines peuvent
être éternelles. Aucune nation n'a les promesses de la vie éternelle.
On ne peut pas dire que la France est où se trouve le roi. On ne peut pas dire que la France se trouve à Madrid. C'est pas... Non.
Là où est la France, là où est le roi, là où est le roi, là où est la France. Point, basta. Ici, c'est pas la France. On est occupé par des gens qui sont pas français.
Oui, nous sommes occupés, mais
c'est une autre France.
Vous dites
la France révolutionnaire.
Vous dites fort justement, nous sommes occupés. Mais qu'est-ce qui est occupé? C'est la France.
Le territoire qui s'appelait autrefois la France.
C'est notre territoire.
Qui est aujourd'hui une expression géographique.
C'est notre territoire.
C'est fini, la France, elle n'existe plus.
Je ne pense pas. Je crois qu'il existe toujours une âme française. Il existe toujours une réalité.
Oui, nous sommes là. Nous sommes là pour
maintenir. Une réalité française.
D'accord, nous sommes des gardiens de musée. Voilà. Très bien. Yves-Marie Adeline, est-ce que vous vouliez faire un petit commentaire là-dessus? Mais on peut continuer le débat. Puis alors, je veux dire, si les fontaines périphériques veulent s'y mettre, vous pouvez y aller, mes enfants. On est libre ici. C'est une radio libre.
Bah, écoutez, je sais pas.
Du pays réel ou de ce qu'il en reste, et de la francophonie de ce qu'il en reste aussi.
Oui. Qu'est-ce que je dis? Oui,
je sais pas. Franchement, si en plus, il faut que je vous écrive mon texte, alors dites-donc, là, on n'est pas sorti de l'auberge.
Non, c'est-à-dire, je me situerai. Vous allez penser que c'est facile de dire ça, mais un peu.
À mi-chemin.
Mais à mi-chemin.
C'est le cas de le dire.
Oui, à mi-chemin de vous trois, en fait. C'est un secret pour personne, non, certainement pas pour deux trois personnes, c'est difficile. Mais au début, j'étais entre gencives devant un four et Île de Soicourt, ça a été plus commode.
Là-dessus, c'est agréable.
Non, mais Daniel, non, c'est vrai que vous avez tenu des propos qui évoquent l'œuvre d'un homme que j'admire énormément. Par ailleurs, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. C'est Jean de Vigry, quand Jean de Vigry dit que la France n'existe plus, je pense que c'est un petit peu exagéré là-dessus.
La France à laquelle nous sommes attachés. Elle n'existe
non mais ça c'est
plus.
Vrai, ça c'est vrai. Non mais je veux dire, si vous m'interrogez comme politique, le président de l'Alliance Royale, moi je répondrai. Il est un secret pour personne que je suis pas un nationaliste. Je ne crois pas du tout en la régence du nationalisme. D'ailleurs, elle a fait ses preuves dans l'histoire. C'est un échec renouvelé, répété, permanent. Je ne crois pas ça. Je crois qu'au contraire, le moment est venu.
Excusez-moi de vous interrompre, oui. Yves-Marie, parce que Dieu sait si j'ai du respect pour cet homme. Mais même cette régence nationaliste que le général Franco a occupé avec énormément de dignité, d'héroïsme, d'intelligence en Espagne pendant une durée quand même extraordinaire, je suis désolé de dire que ça s'est soldé par un désastre absolument total. Il n'est absolument rien resté de l'Espagne traditionnelle, il n'est rien resté des principes que Franco avait essayé de mettre dans les institutions, et aujourd'hui nous avons, même si c'est un Bourbon, famille pour laquelle, vous savez, j'ai le respect le plus grand, nous avons à faire une espèce de royauté de représentation, à ce qu'un auteur ici présent autour de cette table appelle les nouveaux rois fainéants. gens et qui ne représentent rien. Enfin, c'est pas ça auquel on veut. Pas un roi pour un roi. On s'en fout des calèches et des perruques. C'est pas notre truc. On veut un roi parce que nous sommes français. Oui, et quand on est français, on est catholique.
C'est
on est
réaliste.
Voilà.
Internationale qui a joué.
Louis Fontaine.
Contre l'Espagne et contre la volonté du général Franco.
Oui, c'est vrai aussi. Et puis il y a le principe de la droite piégée dans cette affaire.
Quel pays aujourd'hui pourrait lutter contre cette
mais c'est pour
force
ça. Non, mais c'est pour ça précisément.
Internationale
que
qui joue.
Non, mais
sur
c'est compromis. Pour ça que je suis d'accord avec De Soicourt quand il dit on peut pas faire de contre-révolution sans l'incarnation de la contre-révolution, etc. Mais en même temps, aujourd'hui, si on doit faire de la politique, on sait que les Français, ce sont les Français d'aujourd'hui. Jean-Yves de Ventavon disait, la France c'est aussi une réalité, c'est du concret, etc. Ben précisément, on peut pas essayer de refaire la France comme si les Français d'aujourd'hui, de 2002, pas de 1792, comme si ces Français-là n'existaient pas. Or, ces Français aujourd'hui, tant au plan religieux qu'au plan politique, pour ne parler que des choses les moins difficiles à aborder. Parce qu'il y a aussi des millions de musulmans, etc. Et d'autres, et des Français qui se moquent de tout cela. Mais vous parliez du plan religieux, vous parliez de la messe tridentine, mais il y a un tas d'excellents chrétiens qui ne vont pas à la messe tridentine. Donc alors, ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas faire de politique? Et vous parlez de contre-révolution. Je ne suis pas certain, d'ailleurs, Jean-Yves de Ventavon ait la même adhésion dynastique qu'Hugues de Soicourt.
Vous ne lisez pas assez.
Pardon.
C'est, alors, le livre de Soldats et Martyrs, Vendée 93-95, Jean-Cy de Ventavon.
Je n'ai rien dit.
Je ne sais pas lequel de nous deux vous mettez dans une adhésion fausse, mais...
Ne parlez pas tous ensemble. Édité chez Fernand Lannor et dédié à Monseigneur le Duc d'Anjou.
Ah bon, excusez-moi.
Le juré, Louis XX, roi de France et de Navarre.
Alors, toujours est-il qu'il y a... Non, mais il y a des gens de grande qualité et qui entendent aussi mener un combat contre-révolutionnaire, qui n'ont pas les mêmes orientations dynastiques. Alors, s'agissant de mener un combat politique spécifiquement royaliste, comment voulez-vous que je fasse autrement à l'Alliance royale d'essayer d'oublier ces barrières, puisque en tout état de cause, on est très loin d'une restauration monarchique. Mais ce que nous pouvons faire, en revanche, du moins à vue humaine, c'est d'essayer de faire ressurgir la question de l'institution royale dans le débat politique français ordinaire. Et là, nous pouvons très bien surmonter
c'est l'analogue du compromis compromis royaliste.
Absolument, Rémy Fontaine. Mais vous aurez constaté...
Moi, je crains que le compromis royaliste...
Non, mais...
Et autant de succès que le compromis.
Mais vous aurez constaté avec moi que certains royalistes, qui sont avant tout nationalistes, préfèrent le compromis nationaliste à ce que vous appelez le compromis royaliste. Ce qui en dit long, d'ailleurs, sur non seulement le nationalisme lui-même, mais sa prétention à exercer une régence idéologique à laquelle je n'ai jamais cru. Enfin, je reprends là des mots de Pujol, par exemple. Ça, je ne crois pas du tout à des régences de nationalisme. Ça, c'est absolument absurde. En tout cas, aujourd'hui, si nous nous lançons dans l'action politique, véritablement, mais moi, à la limite, je suis écrivain, hein, je peux très bien retourner chez moi, mais si nous nous lançons dans l'action politique, je ne vois pas comment on peut faire autrement que d'essayer de rassembler des gens de bonne volonté sont aussi bien tridentins que Paul VI, parce que c'est comme ça, ou bien orléaniste et légitimiste, puis on essaiera, et le bon Dieu, à mon avis, bénit les artisans de paix et nous aidera par la suite. Parce qu'on ne peut pas régler cette question nous-mêmes pour l'instant.
C'est pour ça que je suis aussi sévère que Daniel Amiche sur le compromis nationaliste, ni sur le compromis royaliste.
Mais ce compromis nationaliste, non seulement c'est une illusion parce qu'il n'a jamais apporté quoi que ce soit, enfin, il n'a jamais fait revenir le roi, et je ne fais pas là une critique contre ceux qui se sont battus courageusement dans les générations précédentes. C'est pas du tout, je ne suis pas en train de faire le procès de Maurras ou qui que ce soit. Simplement, et par ailleurs, et c'est à mon avis le plus grave, mais ça c'est le philosophe politique qui parle, le nationalisme est quand même une vision un peu figée de la cité, et la monarchie c'est pas du tout ça. La monarchie c'est pas du tout du nationalisme. Et aujourd'hui où il y a de grandes questions qui se posent, vous avez parlé de l'euro, vous avez parlé de l'intégration européenne tout à l'heure, il n'y a rien de mieux que la monarchie précisément pour à la fois être de notre époque, faire face aux grands défis des coopérations étroites européennes, etc., en garantissant la souveraineté française, puisqu'elle l'incarne, sans être obligée de se replier sur des positions qui sont aujourd'hui intenables, des positions de repli frileux où des frontières sont mises à vif contre d'autres frontières. C'est absurde. Non seulement on n'y arrivera pas, mais c'est même pas souhaitable. Donc le problème du nationalisme, c'est ça. Alors qu'à une époque, dans les années 1909, 1910, etc., on ait pensé à des formules que ça n'a pas toujours réussi. Hein. J'ai volontairement pas parlé des années 30 pour ne heurter la sensibilité de personne, mais enfin, le nationalisme a aussi pu produire des choses un petit peu regrettables. Donc, il faut aussi savoir percer les abcès. Hein.
Le problème, surtout qu'on a perdu toutes les batailles. Rémi Fontaine, pardon. Mais ça fait une heure que nous devisons amicalement autour de ce feu de camp improvisé, mais nous n'avons pas encore donné la parole à nos auditeurs. Et il nous faut d'abord nous identifier. Nous sommes sur Radio Courtoisie, la radio libre du PRL et de la francophonie. C'est le libre journal de Serge de Bekech. Et nous allons... C'est pas Serge Bekech qui parle, évidemment, parce qu'il aurait changé de voix. Et nous allons donner la parole aux auditeurs par le truchement de la voix méliflue de Victor.
Je voudrais simplement ajouter...
Jean, attention.
En tout petit mot. C'est que... Peut-être au contraire de notre ami... moi, je suis royaliste parce que je suis nationaliste, parce que je crois que justement, c'est le roi qui est le premier défenseur du pré carré.
Oui, mais ça on est d'accord.
Et partout, sauf dans une
partie royaliste.
Mais il n'y a pas de mouvement royaliste.
Monsieur, il n'y a pas de mouvement royaliste.
Et encore une fois,
ne parlez pas en dehors du micro.
Vous-même, vous venez de dire que l'on ne peut pas considérer les Français d'aujourd'hui comme les Français d'autrefois, qu'ils ont perdu des repères. Il faut d'abord leur parler de la nation, et après vous leur parlez du roi. Mais vous allez d'abord leur parler du roi.
On arrête le débat pour l'instant. Je souhaite, qu'en étant le chef ici, je veux.
Prétit Führer.
Le roi dit nous voulons que les auditeurs aient enfin la parole ce soir, en ce 2 janvier.
Il dulce ascemti la giornata.
Sempre la giornata. Allons-y.
Alors rassurons tout de suite une auditrice qui craint que Serge de Bekech, il lui arrive des aventures. Non, il est simplement en vacances.
Peut-être qu'il lui arrive des aventures en vacances.
Des aventures qui le font être évacué, évincé de ce micro.
Il n'a pas quitté. Je peux vous faire une confidence, il n'a pas quitté le territoire national.
C'est très bien.
Qu'il en reste.
Et il se repose.
Disons qu'il est dans l'espace Schengen. Voilà, c'est plus convenable. Voilà. Serge Bekech est toujours dans l'espace Schengen.
Daniel Amiche est le mauvaise foi.
Oui, ben ça c'est pas la première fois qu'on me prend défaut.
C'est grâce aux voitures brûlées que dans les banlieues que le nombre de voitures neuves vendues cette année est en augmentation.
C'est pas sot.
De quoi se plaint-on ?
C'est pas sot, mais c'est un peu comme le pinard. Si on en boit trop et qu'on tue celui qui en boit, après ça crée des problèmes. Pour les viticulteurs, évidemment.
Après 3 bombes artisanales de Strasbourg qui ont fait 10 blessés, les milliers de voitures brûlées chaque année, les écoliers italiens massacrés à Barbès, au fait, de quoi sont-ils coupables les enfants ? Est-ce que M. Adeline et quelques autres couteaux et compagnie sont toujours pour l'immigration ?
Non, on ne répond pas tout de suite, vous répondrez après, Marie, puisque vous êtes...
Prenez des notes. À mon avis, le front est...
Nous avons toujours su que vous étiez pour l'immigration, Adeline, puisque vous êtes Poitevin. Alors, ça veut dire qu'on vous a arrêté qu'à moitié.
Mais, enfin, nos grands-mères, surtout.
Oui, les grands-mères. Ah, bon,
733. Il paraît, faut dire 733, maintenant.
À mon avis, le front est aussi mort que l'Algérie française, Jeanne d'Arc et l'Empire français. La droite qui se réclame de Maurras est-elle has-been ?
Ah, bonne question.
Si Louis XVI avait fait mitrailler quelques centaines ou milliers de terroristes républicains, il n'y aurait pas eu de génocide vendéen. Et si les royalistes n'avaient pas tout fait au 19e et au 20e pour éviter la reprise du pouvoir, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Ça, c'est une opinion.
Pouvez-vous nous expliquer clairement pourquoi le duc d'Anjou est le seul prétendant légitime au trône de France alors que le comte de Paris et Nonndorf le revendiqueraient, paraît-il ? Sinon, à quoi sert votre radio ?
Ben, Moi, je parle pour ma... Il est le vrai, parce que précisément, il n'est pas prétendant. Il ne prétend à rien du tout. C'est l'aîné, voilà. On n'y peut rien, c'est comme ça.
Il y avait dans les chefs vendéens un représentant du roi, à savoir leur bâtard Charette de la Gontrie. La religion est en train de préparer un terrain identique. Moi, je vous lis. Hein. La religion est en train de préparer... Alors ça, c'est une autre...
Deuxième idée.
Idée. La religion est en train de préparer un terrain identique à celui qui a provoqué les guerres de Vendée.
Bon. Pas compris, mais c'est pas grave.
Jean-Sylve de Vontavon a oublié le Barberry, la Brême sur les Ré.
Oui, bien sûr, il y a beaucoup.
Révolte Chouane et son chef était Crève-Bouchu.
Oui, bien sûr, Crève-Bouchu.
Prétendue bataille de Valmy. Votre intervenant emploie le mot prétendu à tort. Le rôle des Anglais, pouvez-vous nous parler du rôle des Anglais dans la Révolution et notamment contre Charles X?
Charles X, le nôtre?
Oui.
Ah ben ça c'est après la Révolution. Ah ben la Révolution de 1830. Oui. Ah bon, bon. Voilà, là, on
alors la double réaction des auditeurs. Je partage l'avis de M. Amiche au sujet de la France. Elle est bien morte maintenant et M. Adeline est en plein rêve. J'approuve M. de Vantavon et j'applaudis fortement à son idée de la permanence de la France. Vous voyez, tous les avis sont chez nos auditeurs.
Comme quoi, hein, on a beau faire, on a beau dire.
L'invité a parfaitement compris. Et il a parfaitement raison. Un roi ou une monarchie n'a pas besoin des oripeaux de la religion dans un pays qui n'est plus croyant. On ne peut pas forcer.
Non, c'est pas ce que notre ami Sylvain Tavon a dit, mais oui.
En tous les cas, c'est l'opinion de l'auditeur. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire, sauf à être stupide. Et beaucoup de chrétiens eux-mêmes, croyants ou non, en ont ras le bol du matraquage religieux ici. À bon entendeur, salut.
Sur Radio Courtoisie.
Spécialement dans votre émission.
Je peux indiquer à cet auditeur qui trouve que le matraquage religieux est trop fort sur Radio Courtoisie, quelques autres longueurs d'onde où là, il ne sera pas matraqué par la religion. Si puis-je dire. Voilà, mais non, c'est comme ça. Voilà. Tant que je suis là, tant qu'on ne me fout pas la porte, je continuerai à penser ce que je pense et à croire ce que je crois.
C'est mon avis et je le partage.
Ben voilà, exactement.
Bon, pourquoi les
c'est
nobles...
C'est moi qui suis l'intéresse et c'est moi qui suis derrière le micro. Ah, non, ça c'est embêtant.
Pourquoi les nobles vendéens ne se sont-ils pas levés plus tôt pour sauver le roi? Louis XVI était déjà prisonnier depuis assez de temps pour le sauver. Rappelez-vous que Louis IX fut sauvé par les Parisiens en 1228. On peut s'étonner du retard de ce soulèvement.
Voilà. Et tout temps. Bon, est-ce que alors vous avez... Il y a un autre paquet qui est arrivé, mais enfin...
Faut que je le déchiffre.
Voilà, faut que vous déchiffriez tout ça. Alors, Jean-Sylve de Vantavon, encore un petit commentaire avant que nous nous quittions sur les messages des auditeurs.
Non, sinon qu'il y a un auditeur ou une auditrice qui n'a pas bien compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas parler de religion. J'ai dit qu'il ne fallait pas mêler trop la religion à la politique aujourd'hui. Et encore une fois, je répète, une fois que l'on a dit que le roi était roi par la grâce de Dieu, eh ben, il ne faut pas y revenir sans cesse, parce que comme le dit M. Lynn, pour une fois je suis d'accord avec lui, enfin pour une fois non, parce que vous êtes aussi tout à fait d'accord avec moi pour reconnaître qu'il faut réunir les Français aujourd'hui sur des thèmes qui ne sont plus les thèmes du XVIIIe siècle. Donc je crois qu'il faut parler de religion qu'à bon escient, et je le répète, laisser au bon prêtre le soin de le faire, ils feront certainement mieux que nous.
C'est la première fois que je vois un accord parfait avec la commission épiscopale. La conférence épiscopale.
Là, vous allez me blesser.
C'est la première fois. Yves-Marie Adeline, vous avez un commentaire à faire?
Non.
Sur ce que nos auditeurs...
Sur l'immigration?
Oui,
parce qu'on a dit que j'étais pour... Alors, je suis pas pour... Ça veut rien dire d'être pour l'immigration. Bon, voilà.
Vous êtes pour l'immigration?
Non, l'immigration, elle est là. Alors, ce que je veux simplement dire, c'est que d'une part... Si vous voulez, derrière, c'est un grand défi que la France doit relever, je ne le nie pas. Et personnellement, je crois, moi, au destin de la France. Donc je ne pense pas que la France soit morte. Mais ceci étant dit, c'est un grand défi que la France doit relever, celui de cette immigration, qui est avant tout l'immigration mahométane. Bon, là-dessus, pour parvenir à remporter ce défi, il faut d'abord savoir ce que nous sommes, Effectivement, de là l'intérêt aussi du combat royaliste, parce que la France c'est ça, c'est pas simplement ce n'est pas seulement une nation au sens ethnique du terme, mais il faut aussi savoir où nous en sommes. Or, nos propres maladies, notre propre décadence, il est bien trop facile de se cacher derrière l'immigration pour oublier que nous en sommes, nous, les seuls responsables. Et je dis et je répète que si nos filles se percent le nez, les lèvres, et je reste poli, paraît-il, c'est pas la faute des Arabes, ça. Si nous sommes incapables de nous marier entre nous, et a fortiori de faire des enfants, c'est pas la faute des Arabes. S'il y a aujourd'hui des gay pride dans les rues de Paris, c'est pas les Arabes qui nous ont apporté ça. Si les homosexuels vont adopter des enfants, c'est pas la faute des Arabes. Donc il est trop facile de dire le problème de la France, c'est l'immigration, et nous sommes des parfaits Français nous sommes victimes de quoi que ce soit.
Ça, c'est une lapalissade que dire que l'immigration, c'est pas le problème des immigrés.
Non,
ça, il faut y réfléchir,
mais c'est vrai,
parce que
c'est
ça
vrai.
Va loin, quoi. Bon.
Donc, il faut d'abord nous guérir. Et si nous sommes capables, nous, de balayer devant notre porte, de nous reprendre en main, alors nous pourrons, à ce moment-là, être un modèle d'intégration, précisément. Moi, je comprends parfaitement que des populations immigrées ici ne soient pas tellement séduites par ce que nous leur offrons. Qu'est-ce qu'on leur offre ?
Mais pourquoi viennent-ils ?
Ne parlez pas sans micro.
Vingt avant dit pourquoi viennent-ils ? Pourquoi a-t-il tant d'immigrés ? On est bien d'accord, c'est une immigration économique. On est bien d'accord que ici, à ne rien faire, ils vivraient mieux que là-bas à travailler. Ceci étant dit, vous savez très bien, et vous le pensez vous-même, que nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes un corps et une âme. Alors ces cages à lapins que nous avons tant critiquées dans les années 60, ces espèces de nids d'insécurité et de délinquance, nous les avons critiquées quand ils étaient habités par des Français. Aujourd'hui, que tant de ces quartiers sont habités par des Arabes, ça pose plus de problème. On ne peut pas comprendre qu'un jeune beurre puisse se sentir mal à l'aise dans ces cités, alors que les Français s'y sentaient mal à l'aise dans les années 60 et 70. C'est de la plus parfaite mauvaise foi. Alors, ça n'est pas du tout être favorable à l'immigration. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut, encore une fois, être réaliste et affronter la réalité telle qu'elle se présente. C'est pas la peine de se cacher derrière l'arbre pudique de l'immigration en criant un rose sur le baudet, en mettant tout sur les Arabes. C'est absurde. C'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Mais là-dessus, naturellement, je suis moi-même chrétien et je souhaite que la France renaisse et devienne un modèle d'intégration parce qu'elle sera plus belle. Et il y a aucune raison qu'elle ne séduise pas. Vous savez, c'est toujours la France qui a fait les Français, hein. C'est pas le contraire. C'est la France qui fait les Français. Elle est au carrefour de l'Europe. Elle a accueilli énormément de populations. Je ne dis pas que l'heure ne soit pas grave. C'est pas du tout ce que je pense. L'heure est grave. Mais c'est aux Français qui existent aujourd'hui de faire relever la France pour qu'elle devienne encore une fois, qu'elle puisse intégrer ces populations.
Yves-Marie-Line,
réponds sur l'immigration.
Je voudrais simplement dire
que nous sommes victimes d'une immigration non pas économique, mais une immigration de peuplement. Je voudrais également souligner que 75%, si ce n'est pas 80% de la population carcérale est composée d'immigrés. Et je voudrais en troisième lieu souligner également que la France, qu'on le veuille ou non, est une nation blanche et chrétienne. Et que si nous voulons conserver blanche et chrétienne, eh bien il faut se garder, je crois, de laisser nos filles trop aller danser le samedi soir avec les maghrébins et les nègres.
Rassurez-vous, elles prennent la pilule ou elles avortent de toute manière. Donc...
Non. Je crois que le problème de l'immigration de peuplement est dû au fait que les Français ne font plus d'enfants. Ils ont qu'à faire des enfants, encore une fois. On est toujours le même problème. L'immigration, c'est pas le problème des immigrés. C'est notre problème à nous. Voilà. Jean, vous aviez encore une petite annonce à faire pour vous, une conférence, vous m'avez dit. Vous m'avez donné un petit papier que j'ai pas pu lire. Oui, faites-le.
Ah oui, je voulais dire deux petites choses, mais alors très très brièvement. Je vais le 19 à Thiberville, c'est dans le Calvados, tenir sur la demande de l'association Présence de la Varande une conférence sur la chouannerie. Le 19 à Thiberville. C'est à côté de Lisieux. Et puis je voudrais demander, mais alors ça c'est tout à fait hors texte, si je puis dire. Je voudrais demander à vos auditeurs si l'un d'eux ne pourrait pas me procurer Le bâtard de Meléon en roman d'Alexandre Dumas et L'écolier de Cluny en roman de Roger de Beauvoir.
Il me semble que vous avez déjà demandé le premier, vous l'aviez déjà demandé.
C'est possible.
Personne ne l'a. Alors redites-le encore une fois, là, c'est Le bâtard de Meléon.
Le bâtard de Meléon en roman d'Alexandre Dumas et L'écolier de Cluny de Roger de Beauvoir. Voilà.
Parfait, voilà, le message est passé. Donc si les auditeurs le savent, ben, ils nous envoient un petit message ici à la radio et nous transmettrons. Donc nous avons reçu Jean-Cyves de Ventavon, Soldats et Martyrs, Vendée 1793-1795, aux éditions Fernand Lanord. Alors le prix n'est pas indiqué sur le livre, c'est un ouvrage de 238 pages. Alors vous trouverez ça dans
150 francs.
Voilà, vous trouverez ça dans toutes les bonnes librairies, du Cannes Diffusion, librairie France Livre.
Et chez l'éditeur.
Rapide, oui, vous avez encore un message rapide.
Le retour d'un roi, oui. Est-il obligatoire de recourir à un Capétien, un Bourbon ou une nouvelle dynastie?
S'il y a une autre dynastie, moi je suis pour, moi je suis premier, prom.
Amiche premier.
Oui, bah pourquoi pas.
Pour moi.
Ah, vous n'auriez pas à vous plaindre, vous qui êtes en train de rigoler dans le studio. Je saurais être bon avec mes fidèles sujets.
Cet auditeur nous dit, pour moi, la France est un peuple qui vit sur une terre, la France. Quel que soit le régime politique, le peuple, c'est nous, et un peuple vivant.
Oui. Oui, là, c'est aussi. Il y aurait beaucoup à dire, mais on ne va pas entamer un autre débat sur cette question, parce que là, franchement, ça nous mènerait très loin. Moi, je suis pour qu'on en discute à chaque fois, mais bon. Merci, Jean-Sylve de Ventavon. À très, très bientôt. Et maintenant, ben, nous allons. Alors, ça, c'est très bien, parce que je vais passer la parole à mon camarade Guy Louis II. Mon bon camarade Guy Louis II.
Encore.
Quoi, vous n'êtes pas mon camarade?
Si, non mais continuez.
Bon, vous voulez que je vous flatte, mon bon Blaise? Je vais vous flatter. Alors, qui est donc le monsieur bande dessinée de notre station, de Radio Courtoisie, en tout cas de cette émission.
Et
puis de beaucoup d'autres.
Oui,
une autre. Vous travaillez dans beaucoup de journaux et tout, c'est un polygraphe.
Oh, bah, écoutez.
C'est un polygraphe. Alors, venez nous présenter deux ouvrages. Réalisé par Louis et Rémi Fontaine. Alors je dis qu'ils sont de la même famille, hein, parce que Louis est le papa de Rémi. C'est ça, hein? Ne me trompe pas.
Tout à fait. C'est ça. C'est moi le père, c'est lui le fils.
C'est lui le fils. Il nous manque plus que le Saint-Esprit. Voilà, espérons qu'il soit un petit peu là. Alors ils viennent nous parler d'un premier ouvrage qui a été fait à deux mains, donc entre Louis et Rémi, qui s'appelle Le pharaon disparu, édition Clovis, et un autre ouvrage écrit à deux mains seulement, celle de Rémi Fontaine, Boussicaut, maréchal de France.
Ah oui.
Alors on vous écoute.
Alors on va commencer, d'ailleurs je vais présenter quand même Louis et Rémi Fontaine. Je pense que les auditeurs les connaissent, il me semble les avoir entendus dimanche matin.
Dans l'émission différée au Libre Journal des Scouts, c'est une émission sur le courage. Hein.
Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Voilà. Vous voyez, je suis aussi un auditeur de Radio Courtoisie.
Je vous en félicite, mon cher maître.
Alors Louis Fontaine donc était éditeur, il est écrivain actuellement. Et nous espérons d'autres ouvrages. Ça vient pas vite, mon cher Louis Fontaine.
Ce qu'on a écrit à quatre mains, le pharaon a disparu, ça doit suivre, il y a toute une suite.
Voilà. Et puis, il faut rappeler aux auditeurs que vous aviez commis, Louis Fontaine, un excellent ouvrage parlant de votre enfance, qui s'appelle Un enfant dans la guerre.
Un enfant dans la guerre.
Aux éditions Clovis, que je recommande chaudement aux auditeurs. Rémi Fontaine, vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste du scoutisme, vous avez écrit déjà de nombreux romans sur le de nombreux ouvrages sur le scoutisme. Et puis cet ouvrage...
Et les philosophes aussi.
Oui, les philosophes, c'est vrai. Il faut dire que vous aviez aussi écrit Politique et morale, éléments de philosophie chrétienne.
Oui, l'année dernière, c'est un livre récent qui donne le béaba philosophique sur la politique et la morale, et en essayant de distinguer pour unir.
Et avec ce pharaon disparu, c'est en quelque sorte... plutôt avec... Oui, ce pharaon disparu, et puis... On y revient là tout à l'heure, ce Boussicaut, c'est vos premiers ouvrages?
Alors,
en tant que roman?
C'est les premiers romans pour la jeunesse. J'avais fait quelques livres, comme le livre d'Hermine à l'adresse des jeunes, mais ce n'était pas vraiment des romans, non, c'était plutôt une chronique.
Alors on commence par l'aventure avec le pharaon disparu, donc ce roman à quatre mains, un roman scout policier, on peut le qualifier comme ça, Louis Fontaine?
Oui, tout à fait, c'est-à-dire que Rémi et moi, nous sommes un petit peu spécialistes du scoutisme, parce que bon, on a commis à tous les deux, ou tout seul chacun, des livres sur le scoutisme, la mémoire du scoutisme entre autres. Bien, donc, étant un petit peu spécialiste, on s'est dit que le roman scout était, bon, il a une aura, parce que derrière lui, il y a des noms prestigieux,
dans la collection Signes de Piste.
Dans la collection Signes de Piste. Mais les gens vivent un petit peu avec ces idées du roman scout d'il y a 40 ans, en fait, hein, ou 50 même. Hein. Donc on s'est dit, il faudrait le renouveler. Alors, en discutant tous les deux, parce que il y en a un qui tient plus l'ordinateur que l'autre. Mais
oui, c'était la question que j'allais vous poser. Comment avez-vous fait pour écrire ce roman?
Dites pas qu'il y en a un qui dicte et l'autre qui tape.
Non, pas du tout. Non, mais on en discute, on en parle tous les deux. Et Rémi a souvent des idées originales. Et bon, moi j'ai tapé, mais le prochain, c'est lui qui va taper. Et c'est moi qui aurai les idées originales.
C'est comme dans le couple Beckett et... et Sanders qui attend toujours le second ouvrage, La nuit de Jéricho, et le rythme est différent entre les deux auteurs. Et
cette nuit ne finira jamais, à mon avis, jamais.
Une aventure qui se passe dans le Cantal. Pourquoi dans le Cantal?
Parce que figurez-vous qu'un jour je me suis trouvé avec mon épouse dans le pays de ses ancêtres, parce que je faisais des recherches généalogiques, et j'ai vu un nom, Roquetanière, j'ai dit ça c'est un nom de roman. Alors j'en ai parlé avec Rémi, et puis...
C'est vrai, ça sonne bien. Hein.
Ça sonne très bien. Ouais. Du reste, le premier titre qui a changé, heureusement, parce que c'était le mystère de Roquetanière, mais justement le mystère ça faisait vraiment... pourquoi pas. Non, mais ça faisait un petit peu la continuation du signe de piste, avec tous les mystères et tout, tandis que le pharaon a disparu, surtout il n'est pas du tout question d'un pharaon dans l'histoire, c'est plutôt une statue égyptienne.
Oui, mais c'est la statue d'un pharaon.
Mais c'est là, oui, et puis c'était une statue qui se passe avec un chercheur égyptien.
Oui, mais alors, à ce qui paraît, c'est que tous les livres qui traitent de pharaon et d'Égypte se vendent très très bien, donc c'est un excellent idée aussi, marketing.
Alors ça, c'est l'idée de l'éditeur, ça c'est l'idée de la Bécellier, parce que c'est un excellent, je ne veux pas faire de publicité, mais c'est un excellent éditeur. D'abord, il lit les romans ou les livres de ses auteurs, ce qui n'est pas le cas de tous les éditeurs. Et il en discute et il demande des aménagements.
Oui. On peut aimer Moïse et penser que le pharaon c'est pas mal non plus. Hein.
Voilà.
Donc une aventure qui se passe dans le Cantal, donc dans un château. Est-ce que ce château existe?
Il existe. Il y a une grande maison bourgeoise à cette place-là. Mais le moulin de Roquetanière existe. Et on parle d'une pisciculture dans le moulin de Roquetanière. Elle existe. Et l'histoire de la crue a été racontée par les gens qui nous ont aimablement reçus, etc.
Oui, faut dire aux auditeurs qu'il est question d'une crue.
D'une crue assez dramatique.
À la fin du roman, oui.
Et la famille de ce pisciculteur, ce sont des écolos, vraiment, tel que c'est raconté, parce qu'on a voulu une histoire récente, donc on parle de voyous, on parle d'écolos, on parle de gens comme ça, et ces gens-là venaient de Paris, l'un travaillait au métro, l'autre était dans un garage ou quelque chose comme ça, ils sont venus, ils ont, sur les ruines d'un ancien moulin du Moyen-Âge, ils ont monté une pisciculture, il y a eu une crue d'un petit ruisseau, pour faire vite, et la dame, qui n'était pas très, très religieuse, m'a dit: oh monsieur, quand la crue est venue et que j'ai vu que tous nos alvins allaient partir, là, on s'est mis à genoux, on a récité Je vous salue Marie. Alors c'est raconté, on en a fait un épisode.
Mais il faut dire aussi, on parlait de Pharaon, que la statue du Pharaon était volée. Donc aussi là le côté roman policier.
Il y a un autre incident dont je peux parler peut-être, c'est que c'est une troupe de scouts en gestation qui a beaucoup de difficultés, avec un curé un peu tradi, un chef avec des vieilles méthodes, mais jeune, dynamique. Et ils partent faire des excursions, des sorties, et il y a un petit scout qui doit rentrer, ça se passe dans le midi, il doit rentrer à Béziers, il prend le train, et il est en butte à une bande de jeunes qui montent tout d'un coup dans le train, et qui agressent ce garçon. Et
pas
qui,
pour lui
qui...
souhaiter la bonne année,
non,
visiblement.
Non. Il traite de petit facho, et il dit, t'es habillé comme un facho, fais voir ta bimbeloterie, etc. Bon, on a essayé d'être un petit peu réaliste, parce que c'est des choses qui se passent quand même, parce que on en discutait justement à la radio Courtoisie sur le courage, il faut un certain courage pour aller en uniforme dans un train aujourd'hui, avec ce qui se passe. Et alors, ce petit gars-là a fait preuve d'un courage en souriant, en essayant de rester calme. Voilà.
Bah, je crois qu'on n'en dit pas plus, parce qu'il faut inciter les auditeurs, justement.
Il y a une ténébreuse histoire avec des gendarmes et tout. Voilà. Ça, j'espère que ça pourrait plaire. On espère que ça pourrait plaire.
Ah, mais moi, ça m'a passionné. C'est pour ça que vous êtes ici ce soir.
Merci.
Donc, c'est une aventure aux multiples rebondissements, une aventure sur l'amitié aussi. Et puis sur le pardon.
Oui, effectivement, parce que à la fin, il y a un grand lavage de linge sale en famille, on peut dire. Parce qu'il y a aussi deux mouvements scouts qui sont en compétition, comme c'est maintenant, tous ces petits mouvements qui se font concurrence, etc. Et finalement, tout le monde s'entend bien. Et c'est vrai, parce que sur place, vous savez, les petits gars qui se rencontrent dans des camps, ils s'entendent bien, finalement. Hein.
Ouais. Et il faut parler aussi que ce roman est illustré magnifiquement par notre char national.
Ah non, non,
non,
ça,
c'est l'autre, pardon. C'est vrai. Bien, on va passer au deuxième roman maintenant.
Ah, mais c'est vous le maître du jeu,
non, mais je regarde l'heure aussi, j'ai pas l'heure.
Ne vous inquiétez pas, vous me ferez. Même si on va avoir la petite pause dans une petite dizaine de minutes, peut-être 9, 10 minutes, mais on peut continuer après, on a le droit.
Formidable.
Et là, Beckett, je suis pas là pour me prendre du temps, donc on parlera dans le temps qu'on veut.
Roman historique.
Même avec nos amis, on peut continuer.
Bien sûr. Un roman historique maintenant, mais aussi un roman d'aventure. Boucicaut, maréchal de France, Rémy Fontaine. Un inconnu de l'histoire de France qui était le cadet de Duguesclin et qui mériterait d'être plus connu aujourd'hui.
Effectivement, c'est un personnage historique qui a été oublié par l'histoire et que j'ai retrouvé de façon un peu anecdotique.
Alors comment ?
Comment ? Oui. Dans la bibliothèque paternelle, il y avait une série de vieux livres qui s'appelle La vie des grands capitaines français du Moyen-Âge par Alexandre Mazas. En 1836, c'est les livres du 19e siècle, et qui racontait un certain nombre de grands capitaines de la France. Et je suis tombé sur ce Boucicaut, dont j'ai trouvé la vie assez extraordinaire, vous verrez la lecture. Et j'avais prévu d'en faire un feuilleton, en fait, pour Présent Jeunesse. Et Présent Jeunesse, c'était
malheureusement
en cours. Et donc, ça m'a donné l'idée de faire un peu, dans le même genre que Alain Saunders avait fait Jeanne d'Arc et Duguesclin, faire ce maréchal de France, donc parce qu'il a été maréchal de France, faire le raconter l'histoire extraordinaire de ce maréchal de France, oublié par l'histoire, un soldat qu'on ressort de l'histoire, en quelque sorte.
Alors, de son véritable nom, Jean le Mingre de Boucicaut, il est né à Tours en 1365. Son père était aussi maréchal de France.
Oui. Il faisait partie de ce qu'on appelait les Marmousets. C'était
les compagnons de
Charles V. Le roi choisissait des gens du peuple, des roturiers, qui n'étaient pas du tout de la noblesse, mais pour l'aider dans les affaires du gouvernement. Et son fils fera aussi appel à ces gens-là pour se défendre de l'ambition de ses oncles. Et par la suite, on appellera ces gens-là des Marmousets, péjorativement, évidemment.
Il est orphelin très tôt et il devient page du futur Charles VI.
Oui, donc il a fait l'école des pages, on peut dire, aux côtés de Charles VI, et il deviendra effectivement l'ami du roi.
Et il est tout de suite remarqué au combat. C'est un adolescent courageux qui va tout de suite en première ligne.
Alors par beaucoup de côtés, effectivement, il ressemble à Duguesclin. Dans sa jeunesse, il jouait alentour avec les enfants du village. Il avait déjà une vocation précoce de chef de bande. Et à l'école des pages, il se fait remarquer par sa volonté farouche de s'entraîner et de devenir un homme de guerre digne des plus grands combattants. Parce que à cette époque-là, les jeunes allaient déjà sur les champs de bataille. Bon, ils n'allaient pas directement au premier rang, mais ils suivaient la bataille. Et lui, son rêve, c'est de faire comme les grands. Et donc, à l'école des pages, il va se faire remarquer par cette volonté de se former, car, dit-il, seuls les forts portent les armes.
Et il est adoubé chevalier à l'âge de 16 ans.
Voilà.
Oui.
Voilà, après un exploit contre les Flamands à Comines, il fait... pour une comparaison qui ne plaira peut-être pas Daniel Amich, mais il fait son Napoléon pour Arcole. Il franchit la tête d'un petit commando.
On m'aura tout infligé dans cette phrase.
Rémy Fontaine, vous faites aussi une magnifique description de la cérémonie du serment.
Ah, oui, alors effectivement, la cérémonie, la grande promesse du chevalier, et ce jeune qui a 16 ans à l'époque, donc, fait sa promesse devant ses compagnons d'armes, qui sont pour la plupart beaucoup plus vieux, en présence du roi, et évidemment c'est la cérémonie que tout le monde connaît avec l'adoubement, cérémonie très très émouvante effectivement.
Et ça, ça vous l'a quand même une petite parce que faire un petit commentaire. Parce que moi, j'ai l'esprit d'escalier, surtout quand je suis enrhumé. Donc ça, les neurones font le temps qu'ils sont dans la gelée là. Et vous disiez, non, il n'y a pas de comparaison avec Bonaparte sur le pont d'Arcole. Alors Boussicault est sur le pont, je sais pas comment vous l'appelez votre pont là.
Le pont de Comines.
Alors regardez du Bayard Garigliano.
Ouais. Ouais.
Mais tous ces gens, ils se sont battus pour leur roi. Ils n'ont pas mis la couronne du roi sur leur tête.
Ouais.
C'est quand même une très grande différence.
Ouais, c'est une petite provocation.
Non.
C'est l'action d'éclat dont parlait Rémi.
Non.
Et Boussicault ne va jamais, et ça c'est très important de le souligner, ne va jamais oublier ce serment qu'il a prêté.
Oui, oui.
Toute sa vie, il sera le modèle des chevaliers.
C'est le modèle des chevaliers. Alors effectivement, c'est une époque chrétien. Où la chevalerie commence à décliner, et ce chevalier est un peu à l'avance, un Don Quichotte, mais sans caricature, parce qu'il a gardé l'idéal de la chevalerie, et il la défend envers et contre tous. Il y a déjà une espèce de décadence à la cour du royaume, et lui... sur tous les plans, que ce soit l'amour courtois, le tournoi, le panache, il garde cet idéal. Il fondera même l'ordre de la dame oui. blanche à l'écuverte, qui sera, qui sera une école de chevalerie pour défendre la veuve et l'orphelin.
Alors les campagnes.
Alors les campagnes...
En Flandre d'abord.
En Flandre, et puis il y aura la fameuse...
Les chevaliers teutoniques.
Les chevaliers teutoniques, oui, il ira s'entraîner à l'époque, il n'y a plus les templiers, mais il y a les teutoniques qui sont les moines soldats de l'époque. Et il était fréquent à l'époque que les seigneurs allaient s'entraîner chez les teutoniques, se former faire leur service militaire d'une certaine façon.
Alors il va combattre en Russie, oui.
Et donc il va s'entraîner là-bas deux fois, parce qu'on lui demandera de l'aide là-bas. Et il se fera, comme toujours, remarquer par ses exploits militaire, car c'était vraiment une force de la nature, d'un courage qu'on peut difficilement imaginer, une force physique, et du reste pour se battre dans ces batailles à l'époque avec ses armures extrêmement lourdes, il fallait une force prodigieuse. Et lui, on peut dire que c'est vraiment la vocation de militaire, de soldat, c'est l'ordre de chevalerie, c'est évidemment l'ancien régime avec les trois ordres, mais lui c'est vraiment l'ordre militaire. Hein, et ça, c'est, toute sa vie, il met son épée à contribution, disponible pour aider là où le roi l'appelle. Hein, c'est vraiment le fidèle du roi, il est l'ami du roi, mais vraiment son serviteur. Quand le roi lui demande d'aller combattre les brigands dans telle région de France, il y va. Quand on lui demande de partir aider les Byzantins de Grèce, il y va. En Italie aussi, il ira. Enfin, il est vraiment, il met son épée à disposition du roi.
Et en France, il
travaille... Comme le préfet Bonnet.
Oui.
Un petit peu.
Là, il n'y a aucune comparaison.
Et en France, il combat à la manière de Duguesclin.
C'est oui, oui. Alors,
contre les Anglais.
En France, alors oui, il est aussi très rusé, justement. Son modèle, c'est vraiment Duguesclin. Alors, il fera plusieurs agressions avec des ruses à la Duguesclin, en faisant croire que sa troupe est dispersée alors qu'elle était tout à fait en guet-apens, et donc il y aura des assauts fabuleux, bon, que je raconte pas dans le détail. Mais,
et puis c'est un grand voyageur, on le retrouve en Orient avec les Turcs aussi.
Oui, alors il assistera au mariage de la fille de Bajazet. Et mais là, il sera simplement en espèce de spectateur. Hein. Il sera chevalier errant, avec un compagnon Renaud de roi. Il ira chez eux observer les mœurs des Mahométans et le sultan, parce qu'il y avait quand même des mœurs assez courtoises malgré tout entre les deux.
C'est le contraire.
Maintenant, c'est le contraire, mais ça durera pas longtemps aussi avec Boussicault, parce que ça finira mal aussi.
Oui.
Mais alors à l'époque, effectivement, il sera accepté comme hôte chez les musulmans. Et
il étudiera aussi leur manière de combattre.
Voilà, et leur manière de combattre.
Il servira aussi
à
ça.
Et il découvrira effectivement le début des janissaires, les fameux esclaves chrétiens enrôlés par les musulmans.
Et puis on le retrouve à la bataille de Nicopolis. C'est alors, des cinq survivants parmi 8000 combattants.
Voilà. Alors fameuse bataille où l'armée chrétienne va se faire complètement écraser face aux musulmans qui ont déjà une stratégie très, très guerrière, très cruelle et beaucoup plus adaptée que celle des croisés.
Trop imprudents les croisés.
Ouais,
hein.
Oui.
Qui veulent toujours briller, se faire apparaître. Il y a toujours c'est le défaut français qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a toujours des conflits entre les seigneurs de stratégie, etc. Et on oublie trop souvent le bien commun.
Oui, vous avez parlé qu'il a créé l'ordre de la Dame Blanche, bien sûr, et puis on le retrouve dans la confrontation des Armagnacs et des Bourguignons. Alors, il sait pas très bien de quel côté prendre parti, mais il est toujours fidèle au roi.
Oui, c'est ça. Alors, il va aller tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, mais bon, son principal souci, c'est d'être fidèle au roi, effectivement. Oui. Mais son parcours est très extraordinaire et et peut être utile justement pour les jeunes qui veulent étudier l'histoire de France, parce que à travers l'histoire d'un personnage, on a à peu près tous les grands moments, toutes les facettes de l'histoire de l'époque, que ce soit en France ou même en Europe. Et on a effectivement le conflit des Bourguignons et des Armagnacs qui est bien expliqué. On a les derniers tournois qui sont faits. Il y a le fameux épisode du pas de Jacques Vert. Et donc, à travers ce personnage, on peut vraiment voir toute cette période de l'histoire qui précède la fin du Moyen-Âge, juste avant Jeanne d'Arc. Hein.
Oui. Et ça se termine très mal, c'est la bataille d'Azincourt.
Voilà,
Azincourt. Il participe à cette bataille en 1415, et il est prisonnier du roi d'Angleterre.
Voilà, alors Azincourt, bon, c'est cette fameuse bataille du Moyen-Âge qui était perdue, c'est le trio infernal entre Poitiers, Crécy, Azincourt. Voilà, c'est ça, hein, c'est face à... aux archers anglais, hein, l'infanterie lourde française ne fait pas le poids face à l'infanterie légère des Anglais, hein, et il termine blessé au champ de bataille d'Azincourt, il est fait prisonnier et il terminera sa vie prisonnier à Londres, oui. À Londres en compagnie de Charles d'Orléans, le poète.
Cher Rémy Fontaine,
il meurt en 1421.
Non, mais je vous interromps quelques secondes puisque là nous avons terminé la première partie, on va reprendre tout de suite, nous aurons une petite friandise en début d'émission. Du libre journal de Serge de Beckett. Alors je redis simplement qui sont nos amis dans le studio, à part ma chère petite Victoria. Donc nous avons Yves-Marie Adeline, incontournable personnage de cette station, Hugues de Soicourt, incontournable, Louis et Rémy Fontaine, qui sont au roman Scouts, que Bono et Nurse Jacques sont au roman policier maintenant. Notre ami Guy Leydeux vient de nous rejoindre dans le studio, le docteur Jean-Yves Ponce, qui va nous parler tout à l'heure d'une association qu'il vient de créer, qui est consacrée à Jacques Bainville, le grand, l'énorme, le considérable historien. Alors, j'ai prévu aux auditeurs une petite friandise de début d'année. Est-ce que la friandise est au téléphone?
Tu parles d'une friandise.
Bonsoir, mon bon Serge. Alors,
bonsoir,
tous mes voeux.
Je voulais présenter tous mes voeux de meilleure année aux auditeurs.
Meilleure année que la précédente ou meilleure année que la prochaine?
Que la précédente. J'espère que la prochaine sera meilleure. Encore meilleure que celle-ci. Je le dis, meilleur que la précédente, ça risque de pas être très très difficile. Puis en plus, c'est une année qui commence bien, puisque je trouve que le métier devient de plus en plus difficile pour la racaille, puisqu'on est en train de s'apercevoir que ça devient dangereux d'attaquer les banques et de voler les voitures. Alors,
il y en a un qui s'est fait allumer, oui.
Ça...
Il a eu son feu d'artifice qu'on n'a pas eu à Paris, voilà, le 31 ça. Au soir, on l'a eu ce matin.
Alors, ce que je voudrais aussi dire, à qui je voudrais présenter mes voeux, ce sont les habitants des Mureaux et les habitants de Vitry, je crois.
Oui.
Qui seront certainement contents d'apprendre que on a envoyé la troupe à Kaboul pour sécuriser Kaboul, comme on dit.
C'était
déjà que Kaboul va être sécurisé par l'armée française.
C'était pour sécuriser un aéroport qui était désaffecté depuis longtemps. Il nous a quand même fallu 30 jours pour rentrer.
Que maintenant, il reste à sécuriser les Mureaux et Vitry et puis les autres villes de la banlieue occupée. Ouais. Peut-être que d'ici une dizaine d'années. On pourra être aussi tranquille dans la banlieue, dans les territoires occupés, qu'on l'est à Kaboul. C'est une bonne nouvelle. Et je trouve que c'est une bonne façon de commencer l'année. Voilà.
Voilà. C'est tout ce que vous aviez à nous dire.
Non, je voulais dire aussi qu'il faut ajouter un terme à notre vocabulaire.
Oui.
C'est merde à l'euro qui doit maintenant conclure toutes les interventions des gens bien.
Que Dieu vous garde et merde à l'euro.
Pardon ?
Que Dieu vous garde et merde à l'euro.
Mais merde à l'euro.
Voilà.
Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que l'énorme, la fantastique propagande européiste qui est faite sur toutes les radios, c'est quelque chose d'ahurissant, on n'a jamais entendu ça, à ce point-là, je veux dire. Ils nous expliquent tous que tout va bien, que c'est une réussite fabuleuse et extraordinaire, et que vraiment, il y a un euro-enthousiasme chez les euro-utilisateurs. C'est formidable, vraiment, c'est extraordinaire. Et puis après, on donne la parole aux gens, gens disent, moi, j'ai pas une monnaie, de toute façon, moi, je paye en francs, on me rend l'argent en francs. Les commerçants disent que ça les enquiquine. Et tout, en fait, tout le monde est d'accord sur le merde à l'euro.
Ben, on est dans cette logique extraordinaire qui est une logique à la Orwell où tout est à l'envers, puisque on nous avait dit que la loi sur les 35 heures allait libérer un nombre considérable de postes de travail, et on s'aperçoit de quoi ? C'est qu'il y a eu 3 mois, le chômage remonte. Donc plus la loi des 35 heures est appliquée dans les entreprises françaises, plus le chômage grimpe. C'est quand même c'est intéressant quand même.
Tout va bien. J'ai appris à l'instant en écoutant une radio concurrente, enfin non, pas concurrente, oui. Parce que Radio Courtoisie n'a pas de radio concurrente, mais en écoutant une autre radio, que Jospin venait d'embaucher comme conseiller technique une publicitaire de l'agence Roux, Séguéla et Combaluzier.
Oui.
pour assurer donc sa propulsion et pour assurer son image.
Moi je sais comment le propulser, hein, mais je ne le dirai pas à l'antenne.
Oui, moi aussi. Avec un pied bien placé, ça devrait lui donner de l'élan. Mais je voudrais donc remarquer une chose, c'est que ce très honnête jeune homme, si j'ai bien compris, vient d'embaucher une fonctionnaire, enfin comme fonctionnaire intérimaire, ou en tout cas comme contractuelle, une jeune femme qui est une professionnelle de la publicité. Autrement dit, c'est Matignon, le service du Premier ministre, qui vont payer la fille qui est chargée de construire une image de présidentielle à Jospin.
C'est hallucinant.
Apparemment,
et les pavés ne se soulèvent pas tout seuls dessous le bitume.
Ouais. Voilà, c'est une année qui commence très très bien, ouais. Parce que la racaille se fait dessouder, la canaille met bas les masques et merde à l'euro. Ouais. Voilà.
Alors je voulais Serge, quand même que tu donnes, on va se tutoyer puisqu'on se tutoie dans le privé, on peut se tutoyer aussi dans le semi-public. Je voudrais que tu précises comme aux auditeurs, que tu le dises, non pas sous la pression, parce que tu n'es pas mon otage, que je ne cherche pas à prendre ta place. Et que quand je suis là, c'est pour te remplacer. Dis-le, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages à la limite du convenable.
Je vais pour dire aux auditeurs que je suis obligé d'user de subterfuges particulièrement vicieux pour pouvoir parler. Par exemple, là, j'ai téléphoné en disant c'est Jean Ferré qui voudrait dire, donc il m'a donné la parole. Mais en réalité, la vérité, c'est que je suis victime d'un horrible complot. Amish fait tout pour m'empêcher de revenir et pour raccourcir les petites vacances que j'ai prises. Voilà, c'est ça que tu voulais que je dise.
Voilà, c'est très gentil, je te remercie beaucoup, tu me sers la soupe. J'ai simplement dit tout à l'heure à nos auditeurs que je ne cherche pas du tout à prendre ta place et que, de toute façon, tu étais dans l'espace Schengen. Hein. J'ai rien dit de plus. Hein.
Ah ben, je peux dire que je suis en Normandie, parce que moi, je ne sors pas.
Ah ben voilà, t'es dans l'espace Schengen. On ne dit pas Normandie, on dit espace Schengen maintenant.
Oui, espace Schengen. Voilà, je ne sors pas de France, et je sortirai d'autant moins de France maintenant que le seul argument des euromaniaques, ça, c'est un argument fabuleux. Tous les gens qui ont dit « Mais à quoi ça sert l'euro ?» disent « C'est formidable, vous comprenez, maintenant on peut voyager partout en Europe sans changer d'argent. » Mais moi, je vais jamais nulle part. Totalement. Ce que je vois, c'est que jusqu'à présent, j'ai 55 ans. Pendant 55 ans, j'ai pu voyager en France sans changer d'argent. Et qu'aujourd'hui, je suis obligé de changer de l'argent en France pour pouvoir faire des achats. C'est quand même formidable.
Je crois vraiment
que ces gens-là nous prennent pour des imbéciles. Alors ça, c'est la gâterie. C'est la gâterie du réveillon, parce que je ne sais plus qui, je crois que c'est Courteline qui disait qu'il n'y a pas de que c'est un plaisir de fin gourmet d'être pris pour un imbécile par un idiot. Et là vraiment c'est une réussite totale. Quand on entend tous ces voleurs, ces prébendiers, ces corrompus, ces crétins nous seriner que l'euro est la plus belle réussite du millénaire, moi je suis vraiment réjoui. Voilà. Voilà. Donc il n'y a que de bonnes raisons de se réjouir en ce début d'année, et sauf bien sûr pour les gens de l'Est et pour les gens de Toulouse, parce que vous savez que la France a donné des fonds pour les sinistrés d'Alger qui ont été envahis par la boue après avoir bouché les aménagements qui avaient été faits par la puissance coloniale.
Bien sûr. Bien sûr.
Ils sont allés habiter dans les endroits que la puissance coloniale avait aménagés pour chasser la boue de Bab el Oued. Ils ont même oublié eux-mêmes que Bab el Oued, ça veut dire la porte de la rivière.
Donc
forcément, un jour ou l'autre, la rivière allait passer par la porte. Vous voyez dans quoi ils ont été ensevelis par la boue, et ça, on leur a immédiatement donné du fric pour tout nettoyer et se remettre en jambes. Mais pour les Toulousains, s'ils veulent des vitres, il va falloir qu'ils fassent fondre le sable eux-mêmes.
Alors ça, c'est clair, oui.
Voilà.
C'est
alors,
clair.
Donc, Français, rassurez-vous, l'ordre règne à Kaboul, le bordel règne aux Mureaux et à Vitry.
Ben oui.
Les Algériens sont au chaud, mais les Toulousains se caillent les meules.
Voilà.
À part ça, tout va bien, et vous allez voter dans quelques mois, et bien entendu, je ne m'adresse pas aux auditeurs de Radio Courtoisie, je m'adresse, et là je parle des Français en général ou en majorité, je le crains, vous allez encore une fois voter pour un voleur et un imbécile, et après vous viendrez pleurer parce que les choses ne vont pas comme vous le souhaitez.
Bon, enfin, ça c'est tout à fait... À propos de Toulouse, d'ailleurs, je voulais dire à nos auditeurs que c'est vrai qu'on a eu raison d'arrêter nos expérimentations nucléaires dans le Pacifique.
Oui, c'est pas
à la satisfaction des voisins qui sont à 10 000 km de là, puisque maintenant, il paraît qu'avec un tout petit peu d'engrais à gazon et un demi-litre d'eau de Javel, on fait des explosifs de première grandeur.
Et un arc électrique.
Alors voilà, il faut un petit arc électrique, oui.
Parce que depuis ce matin, c'est l'arc électrique.
Ah, c'est encore
une
chose.
Maintenant, avec finalement un arc électrique et les flèches, ce sont les gens qui nous grisent, on est capable de provoquer un cataclysme.
Voilà. On en revient aux bonnes vieilles méthodes guerrières. Un arc et des flèches.
Voilà. Mais c'était Churchill qui avait raison, qui disait... Je sais comment s'est passée la Première Guerre mondiale, je sais avec quoi on a fait la deuxième, je ne sais pas avec quoi on fera la troisième, mais la quatrième, je peux vous dire qu'on la fera avec des massues et des silex.
Eh ben, on y va.
Eh ben, on est
en... Bon, venu. Alors c'est pas tout ça, puisque voilà. Tu es en vacances, c'est pas la peine de me prendre trop de temps, parce que là, je constate que tu viens de me prendre 12 minutes sur la deuxième partie, ce qui est une question d'habitude. Hein, t'as une espèce de réaction. Quand les auditeurs auront-ils le bonheur de t'entendre directement dans le studio?
Si Dieu veut, la semaine prochaine.
Ce sera la semaine prochaine, hein.
Ouais.
Précise bien, parce qu'après ça, les gens vont croire que...
Voilà. Et puis voilà, je vais vous laisser, mais je voudrais embrasser Victoria.
Ah ben, elle est là,
Je vais embrasser le I2 et j'ai du mérite.
Chacun. Il y a aussi nos amis Louis et Rémi Fontaine.
Les Fontaines.
Il y a Adeline aussi, tu peux l'embrasser aussi.
Qui?
Adeline.
Non.
Tu
non,
sais
non.
Le jeune qui vient de faire de la politique.
Pas.
Ah non, tu veux pas l'embrasser. Bon, très bien. Il y a soit
non, parce que c'est un démocrate.
Oui, c'est ça. Oui, oh, c'est un violent démocrate.
Avec les démocrates, je suis quand même un petit peu sur la retenue.
Donc il y a Soicourt aussi qui est là.
Et puis le jeune Soicourt.
Voilà.
Qui salue le maître des lieux.
Voilà.
Un jour ou l'autre, il t'arrivera des histoires avec
moi. C'est très possible.
Il digne ta place.
Oui, je sais. Voilà. Chacun son tour. Hein. La vie est faite de hiérarchie, comme dirait l'autre.
En tout cas, encore une fois, tout mes bons voeux aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Eh ben.
Tous mes bons voeux aux auditeurs du Zapping, puisqu'il paraît que je suis en train de devenir un abonné du Zapping.
Ah, je savais pas ça.
Ouais, on m'a dit ça.
Ouais. Ah, bah oui, mais il faut dire aussi que parfois.
Au cri de ralliement, merde à l'euro.
Donc à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Que Dieu te garde. Voilà, donc c'était votre petite friandise de rentrée. Hein, on pouvait pas se passer d'avoir quand même la vie. Il aime bien faire sentir que c'est lui le patron, quoi. Hein. Vous avez vu. Il m'a pris exactement 14 minutes. Sur mon emploi du temps. Alors donc, nous allons redonner la parole brièvement à
nous
nos amis Louis et Rémi Fontaine relativement aux ouvrages dont nous avons parlé. Alors il faut dire, oui, c'est une question que je vais poser, j'avais noté ici au crayon noir, les ouvrages sont illustrés, en tout cas le pharaon est illustré.
Oui, le pharaon est illustré et Boussicot aussi par Char.
Ah, très bien. Mais Char, c'est une super dessinatrice.
Une très très grande. Pour moi, c'est le plus grand dessinateur femme français.
Ah oui, d'accord. On parle des femmes, dessinateur
dans le sens générique du terme.
D'accord. Dans les hauts de chez, il n'y a pas de doute. Hein.
Ah oui.
Par contre, chez les hommes, il y a de la concurrence quand même. Il y a Miège, il y a Ignace.
C'est autre chose.
Il y a Con qui n'est pas mauvais, il y en a beaucoup. Voilà, alors encore quelques petits
mots. Nous avons parlé du pharaon disparu, de Louis et Rémi Fontaine aux éditions Clovis.
Le prix. À quelle tranche d'âge?
10,50, et il y a un signe bizarre après.
10,50 ans, je ne sais pas ce que... 10,5 ans?
Oui, 50. 10,50.
Ah, c'est pas l'âge, ça, c'est le prix.
C'est le prix exprimé en euros.
Ah, c'est
10,50 euros.
Oui.
10 euros et 50,
à de...
100 d'euros.
Oui, l'âge, c'est à partir de
10 ans.
Je descendrai même un peu. Hein.
Moi, j'ai des pièces, c'est marqué 8 ans. C'est marqué 10 cents, C-E-N-T, il n'y a pas de S, hein. D'euros.
Oui. D'euros.
Genre, même les Américains, par exemple, quand ils parlent, one cent, two cents.
Yeah.
Mais nous, on a même pas ça. On a 500, c'est pas 500 euros, hein. C'est 500 d'euros.
Vous êtes sûr que c'est pas euro 100?
C'est marqué Alors, je peux, j'en ai des pièces. Bon, d'accord. Alors, c'est marqué 500 d'euros. Voilà. Et le 100, C-E-N-T.
Peut-être qu'on pourrait demander à Victoria si on dit 6 euros ou 6 euros.
Ou 6 euros. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, Victoria, qu'est-ce qu'on dit? On dit 6 euros ou 6 euros?
Je ne parle qu'en francs pour le moment. Je n'ai pas d'euros. La poste était en grève.
Mais c'était vous, l'institutrice. Hein?
Je ne me suis pas encore posé la question.
Alors, qu'est-ce qu'on dit?
Je ne veux pas relancer le débat. Je vais recevoir 298 000 messages.
Ça, les appels vont partir, là.
Ah, c'est effrayant. Alors, donc, c'est quel âge?
Donc, Le Pharaon a disparu de Louis et Rémy Fontaine aux éditions Clovis, 10,50 euros.
Voilà, il ne s'agit pas d'un roman sur Mitterrand. C'est vraiment pour les enfants. On peut donner 16, on aura peur la nuit.
Allez.
D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause du Pharaon? Non, parce que là, on parlait d'une... Je voulais faire le mot, puis je ne l'ai pas fait, parce que vous étiez parti sur autre chose. Enfin, il y a une crue, c'est ça? Il y a une grande crue.
Oui, une crue, oui.
Vaut mieux une petite cuite qu'une grande crue, ça, je vous le dis. Alors, donc, voilà, c'est pour les...
À partir de 8 ans, hein, le roman...
8 ans, c'est bien.
Le roman Scout policier.
Très bien, très bien.
Et puis, le Boussicot maréchal de France, de Rémy Fontaine, toujours aux éditions Clovis.
Pareil,
toujours le même,
10
prix,
ans,
le même prix, 10,50 euros à partir de 12 ans.
12 ans, oui.
12 ans, oui, 12 ans.
Disons que c'est...
10 ans, allez.
Pour les parents, c'est le programme scolaire, je crois, de 5e.
C'est ça, oui, c'est le moyen.
Mais alors, pourquoi, alors ça c'est la question qui tue, la question absolument idiote, mais alors pourquoi est-ce qu'on a donné un nom d'hôpital à...
Alors, ça n'a rien à voir. Ce Boussicot n'a rien à voir
c'est
avec son homonyme.
Parce que l'autre, j'ai eu peur, j'ai un truc de Boussicot, mais c'est un machin de l'Empire, ça c'est pas...
Non, ce Boussicot n'a rien à voir avec son homonyme qui a donné le nom à l'hôpital.
Fondateur du bon marché, pas d'un hôpital. Hein.
Ah
oui.
Bon.
Et oui, exactement. Enfin, accessoirement, après, son épouse a fondé...
Ah, c'était un bon catholique social, c'est ça?
Voilà.
Très bien, donc ça n'a rien à voir avec l'Empire.
Début 19e, oui.
Si, il y a quelque chose à voir. Alors, je salue la présence dans le studio du duc de Clermont-Tonnerre qui vient de faire une entrée remarquée, n'est-ce pas? Mes respects, monsieur le duc. Voilà, donc Boussicot, c'était un bonhomme, un brave catholique social, tout ça, là.
Mais il a débuté sous le Second Empire, je crois, mais de toute façon, il n'a rien à voir. C'est pas son ancêtre, le maréchal de Boussicot.
Ah oui, oui. Hein. Ah oui, tiens, vous pouvez dire ce petit message, ma petite enfant. C'est intéressant, c'est des précisions historiques.
Boussicot a eu aussi comme compagnon le comte de Culan. Compagnon de Jeanne d'Arc et de Gilles de Rais.
Comment c'est possible, ça?
Bah si, Charles VI.
Charles VI?
Charles VI, c'est tout près, Charles VII.
Oui, c'est tout à fait dans l'époque.
Parce qu'il se trouve que Charles VII est le fils de Charles VI.
Charles VIII
n'est pas le fils de Charles VII. C'est qui le fils de Charles VII?
Le fils de Charles VII.
Oui, allez-y, mon bon, allez-y. Voilà.
C'est Louis XI.
Ah, bravo. Connais bien son histoire, hein. C'est très bien.
Et les Vadeline, vous aurez 10.
Vous aurez 10, vous aurez un bon point. Alors donc,
Charles VI le fait,
et Gilles de Rais, malheureusement, qui était un grand maréchal, mais
oui,
relativement mal fini.
Bien sûr, oui.
Enfin oui, oui. Il y en a d'autres qui ont encore plus mal fini à cause de lui.
Il s'est bien repenti.
Oui, d'accord, mais enfin bon, oui. Bon,
oui, il est mort en odeur de sainteté, presque.
Écoutez, alors là, je ne sais pas ce que ça sentait, mais à mon avis, c'était peut-être pas ce que vous pensez. Enfin bon, maintenant, il ne faut pas discuter, parce que Dieu est toute miséricorde.
Alors ce Boussicot-là, ce Boussicot-là. Bon, monsieur Adeline, on ne rit pas.
Ne faites pas le baudet.
Maréchal de France, il faut absolument l'acheter, ce roman. Vous découvrirez vraiment un grand maréchal de France.
Voilà, qui est un personnage peu connu et qui a honoré les.
C'est un roman passionnant, bien écrit.
Attendez,
le nombre de personnages historiques. Sur 15 siècles d'histoire, dont on pourrait faire des films extraordinaires.
Ou des bandes dessinées.
Quand quelqu'un a le malheur d'en faire un.
Vaut mieux pas.
Ça donne Vercingétorix, ce qui dit Gaulois.
Vaut mieux. C'est vrai. Oh là là.
Ou alors ça donne Jeanne d'Arc.
Jeanne d'Arc.
Une sœur, un viol.
L'anglaise. Celui-là est pas mal. Parlez bien dans le micro, monsieur le duc.
L'anglaise et le duc, c'est quand même vachement bien.
Oui, monsieur le duc.
Mais alors on connaît. Voilà, c'est pas le même. Comprenez pas tout.
On connaît le duc, mais qui est l'anglaise. Non, il faut bien parler. Alors, ne parlez pas les uns sur les autres, parce que sans quoi, c'est moi qui me fais disputer après. Alors, les auditeurs me diront qu'on prend.
Ça fait très vivant.
Il paraît que non.
Croyez-en, il y a un vieil auditeur.
C'est peut-être la tienne. Voilà. Donc, voilà, je voulais faire les commentaires, j'ai pas le temps, j'en ferai dans un mois. Mais parce que j'ai acheté la cassette de Jeanne d'Arc de.
Besson, de, c'est ça.
Hein?
Besson,
oui. Il faut pas oublier la cédille, je crois. Hein. c'est à tomber à la renverse.
C'est incroyable.
Tomber à la renverse.
Non, mais à la limite, qu'il n'ait pas la foi et qu'il se dise.
J'ai hésité, je mets la folie des grandeurs ou. Non, j'ai dit, tiens, je vais mettre Jeanne d'Arc. Bah, j'ai beaucoup ri.
Non, mais là, la scène du sac de Charles VII, ça, je vous garantis que ça, c'est un morceau d'anthologie. Hein.
Mais non, parce qu'il est, il est bourré de talent, ce type, comme je veux dire, au point de vue de la prise de vue. Oui. C'est extraordinaire. Et qu'il n'ait pas la foi.
Aussi était...
Non, mais je veux dire, qu'il n'ait pas la foi et qu'il se dise, je veux avoir une autre lecture, je vais essayer de comprendre le mystère de Jeanne d'Arc.
Il ne comprend rien du tout.
Alors, bah, qu'il essaye, je ne sais pas, mais là, il invente une sœur et le viol de la sœur, ce qui expliquerait tout le reste, ce qui d'ailleurs explique rien, entre parenthèses, mais
c'est psychanalyse de prise unique.
C'est nul, quoi, c'est fou.
Et alors, le miracle des loups, c'est pas mal aussi.
Ah ben ils font du karaté là, c'est ça?
Ah ouais, ça c'est il y a un Indien tout. C'est, c'est le dernier des, c'est pas des Mohicans.
Je pense que vous confondez parce que le miracle des loups.
Non, c'est pas. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'étais surpris. Oui.
Bon, écoutez, le miracle des loups. Je vais vous dire.
J'ai trouvé que c'était un très beau.
Qui c'est qui jouait le duc de Bourgogne? C'est commissaire Navarro.
C'est vrai.
Alors ça fait quand même bizarre, hein, je veux dire. Charles le Téméraire.
De toute façon...
Navarro, dis donc. Erreur de casting. C'est effrayant.
Et c'est l'accent.
Voilà. Alors, le pacte...
Non, mais à l'époque, il n'était pas Navarro.
Hein?
À l'époque, on n'en parlait pas de Navarro.
Non, mais déjà, il avait déjà mangé beaucoup de loukoum. Hein, Et alors, c'est quand même... Non, c'est très marrant, quand même, faut dire. Bon, voir ça maintenant,
non, c'est un bon film. Quoi.
Alors, le pacte des loups, c'est très beau. Il y a une scène dans une église où il y a une messe. Alors, les messieurs ont leur chapeau sur la tête et les dames sont en cheveux. C'est censé se passer au XVIIIe siècle sous notre bon roi Louis XV.
La constitution est très fidèle, oui.
Ah oui, alors on sent quand même que...
On sent que...
qu'il y a de l'argent, hein. C'est très intéressant tout ça. Bon, alors ça suffit, ne sucez pas le micro comme ça, laissez à notre petit camarade qui a des messages à lire. Bon. Bah, allez-y ma petite chérie, vous laissez pas.
Était le neveu de Gilles de Rais. Il existe encore un nombre important de descendants qui hélas n'ont plus le même patronyme.
Qui hélas ne s'appelle plus Gilles de Rais, c'est un peu dur à porter. Hein.
Non,
c'est comme Sade ou.
Non,
quand même, c'est
quelque chose. Il s'appelle plus Duguay-Clin.
Ah, bon.
Ah, Daniel Amiche.
Oh là là.
À vous qui ne savez que répéter que la France est morte.
Oui.
Rappelez-vous cette sentence de Vauvenargues.
Oui.
Il est indigne des grandes armes.
Oui.
De répandre le trouble qu'elle ressent.
C'est vrai, mais je signale à l'auditrice que Vauvenargues aussi, il est mort.
Oui. Qu'on le fusille tout de suite.
Mais non, Vauvenargues, il est mort, bien, je voulais pas besoin de fusiller.
Alors, un auditeur, c'est vous que je voulais fusiller à tout hasard.
Ah bon, vous êtes gentil.
Tous les matins.
Si vous voulez terminer l'émission à place, moi, c'est bien simple, je prends mes clics et mes claques et vous terminez.
Écoutez ça, pendant la coupure technique, nous dit cet auditeur, j'ai mis France Info, seulement pendant la coupure technique, qui annonçait que... La mort du jeune Moussa serait vengée, d'après les indigènes des Mureaux. Une voiture a déjà été incendiée. France Info a par ailleurs précisé que la légitime défense du policier qui a tiré était contestée.
C'est suspect. Je
voudrais Daniel.
Moi, je peux vous dire déjà, je l'ai dit la semaine dernière, dit que l'Algérien de 41 ans qui vivait en France, qui est né en France, qui est proche, qui va. J'ai dit qu'il serait libéré dans l'année.
Oui, il a été libéré.
Il n'y a aucun problème. Oui, continuons.
Je voudrais remercier l'auditeur qui communique par Internet du Québec, qui nous souhaite la bonne année.
À vous,
à tous. Bonjour et bonne année à tous, sans oublier la technique.
Enfin, ça, c'est pas l'accent. Hein.
Mais en particulier pour Victoria. Qui a à Montréal un pont sur la rive sud du Saint-Laurent avec le pont Jacques-Cartier et le pont Champlain entre le pont Jacques-Cartier. Au Québec, monsieur Amiche, nous avons la fleur de lys.
Et oui, c'est vrai.
Cordialement
c'est vrai.
À tous, donc merci, cher auditeur.
C'est bien. Enfin, je vous signale,
nous vous souhaitons
Victoria
à vous
que...
aussi une très bonne année.
D'accord, mais la radio n'est pas faite pour passer vos messages personnels.
C'est
gentil que vous
tous, y compris la technique.
Pas ce moyen de diffusion prodigieux avec vos petits trucs, vos petites histoires avec votre Québécois, là, que...
Oh, allons.
Je ne sais pas quel sirop d'érable y a entre vous, mais on est dedans. Bon, voilà. Alors, c'est très bien, donc... Vous pouvez rester avec nous, hein. Il n'y a aucun problème, ça vous amuse, parce qu'on n'a pas fini, on va encore rigoler là. Donc il n'y a pas de problème.
Quelques petites actualités sur la BD.
Alors oui,
est-ce que je pourrais.
Non, comment ça, non, c'est qui le patron
Daniel, je voudrais vous demander, est-ce que je pourrais, pour passer
j'ai
la
pas
place
l'argent.
À Daniel, à Jacqueline, vous lire l'annonce que vous m'avez donnée, parce que comme je l'ai.
C'est pas moi qui vous l'ai donnée, je vous ai donné l'autorisation de la lire.
Voilà.
C'est la même chose, il faut bien parler les Français.
Je ne suis pas sûre que Jacqueline arrive à s'y retrouver. Bon, dans mes gribouillis. Alors, l'Assemblée nationale examinera le 15 janvier, une proposition de loi déposée par le groupe parlementaire Radicaux Citoyens Verts, instituant le 19 mars 1962, journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie.
Donc, c'est sûrement en l'honneur de Saint-Joseph, je pense.
Oui, à la suite de ça, les associations de France et d'Afrique du Nord, les anciens combattants d'AFN et leurs nombreux amis métropolitains appellent à se rassembler pacifiquement le mardi 15 janvier à partir de 8h30, place du Palais Bourbon, devant l'entrée de l'Assemblée nationale, avec pour seul emblème le drapeau tricolore pour lequel plus d'un million de soldats de l'armée d'Afrique sont morts, afin de montrer qu'une majorité de Français dit non au 19 mars 1962, jour de trahison, pour toutes les victimes d'un crime d'État prémédité. Voilà.
Oh bah c'est très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis effondré, mais enfin, comme chaque jour m'apporte son lot de d'effondrement, enfin, pour moi, c'est les Twin Towers. Hein. Tous les jours, un peu plus sur les épaules. Bon, c'est tout ce que vous avez à dire.
Oui, Daniel, et maintenant, je vous quitte.
C'est très bien.
Je vais dire au revoir aux auditeurs et voilà. Je passe la place à Jacques.
Non, il ne faut pas partir, Victoria. Mais parce que je vais parler de quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez.
Ah oui. Restez encore une petite minute.
Parlez de Bécassine.
Ah, Bécassine, j'adore.
C'est pour ça.
C'est la seule bande dessinée.
Mais justement, j'ai pensé à vous, vous voyez.
Horreur des bandes dessinées.
C'est votre cousine, c'est ça?
Parce que c'est ma cousine. Non, et puis les mille et un tours de l'espiègle de Lily.
Ah,
mais ça,
oui,
elle,
ça,
on
ne
l'a pas réédité.
Ah bah non,
vous pouvez le trouver facilement.
Ah, mais j'en ai.
Vous avez la collection.
Pas toutes.
Bon, alors bon, ça va, maintenant les mondanités, non, là, mais... on peut continuer l'émission, oui. Là encore du boulot. Hein.
Vous avez vu, pour retenir Victoria ici. Hein.
Bon, bah, il suffit de peu de choses.
Bécassine, voilà. Donc Bécassine,
un bourgeois,
pourquoi
une chaîne.
Pourquoi Bécassine? Peut-être parce que cette année, on va fêter les 97 ans de Bécassine. Vous vous rendez compte?
Je ne suis pas encore là, mais
elle est née. Elle est née un... Non, alors, elle est née un 2 février. 2 février 1905, dans le numéro 1 de...
Pilote.
Non, alors... Oh,
la semaine Victor... de Suzette.
Voilà, bravo Victoria.
Non, je ne parle tout le temps de pilote ici. Alors moi maintenant, dès qu'on pose une question, pilote.
Et Bécassine fait l'objet d'un dessin animé long métrage. Le saviez-vous?
J'ai vu des affiches dans Paris.
N'allez pas le voir, c'est très 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 mauvais.
De toute façon, j'avais pas l'intention.
Contrairement à ce qu'un de nos confrères de présent a écrit, en jetant des fleurs, on ne donnera pas son nom. Non, on ne donnera pas son nom. Rémi, non.
Oh, dis donc, ami de la délation, bonsoir.
Non, bah, je ne donne pas le nom. Hein.
Moi, dis donc, c'est comme si vous aviez donné le nom, vous avez nommé le journal.
Non, mais j'étais furieux en lisant l'article parce que c'est vraiment très mauvais. C'est une Bécassine revue à la sauce américaine.
Le graphisme,
le graphisme, c'est pas du tout le graphisme très particulier de Joseph Porphyre Pinchon. C'est pas ça du tout. C'est un graphisme moitié américain, moitié japonais. L'histoire, pourquoi pas? C'est bien ficelé. Mais qu'est-ce que Bécassine vient faire dans cette galère? Ça, je me le demande.
Et le trésor du pharaon, non?
Non, le trésor. Non. Vous confondez.
Je proteste.
Non, attendez, c'est
le trésor du viking.
Ah, du viking.
D'un trésor viking découvert au pôle Nord. Vous vous rendez compte, la pauvre Bécassine.
Ils ont aussi découvert le pôle Nord.
Ouais, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas?
Parce qu'ils ont aussi découvert, vous savez, les vikings, ils ont aussi, c'est la plus grande civilisation du monde. J'entendais quelqu'un là sur une radio qui disait ça l'autre jour. Oui, c'était sur RFI, je sais pas ce que c'est.
Radio France Internationale.
Radio Fion, je sais pas comment ça s'appelle. Et alors, j'entendais disait que la civilisation viking, c'était la plus grande civilisation qui existait au monde. Ils ont tout découvert.
Oh là là.
Tout découvert. Ils ont découvert l'Amérique. L'Amérique, le pôle Nord, là, d'après le film américain qui montre bien qu'ils ont découvert le Cap de Bonne-Espérance. La boussole, ça je l'ai vu dans un film, vous avez la boussole, je l'ai vu dans un film. Et puis alors le fil à couper le beurre aussi, pareil.
Ah bon?
C'est très important parce qu'après le beurre il se mettait sur les cheveux pour.
Ah bah c'est vrai!
Voilà, il paraît que
c'est du beurre rance.
Oui, enfin je sais pas comment il était. Enfin voilà, donc tout ça c'est très intéressant. Excusez-moi.
On revient à Bécassine, Bécassine nationale. Bécassine, je vous rappelle de son véritable nom, Anaïque Labornaise, qui est née à Clocher-les-Bécasses. Non, si vous voulez vraiment, si vous vous intéressez à Bécassine, lisez les albums de Bécassine. Il y en a 27 à votre disposition, édités par les éditions Gauthier Langros. Et alors Bécassine avec tout son petit monde,
Faites-moi penser encore on est deux caisses de.
Non, mais.
Non, c'est pour les
rappelez-vous, souvenir. Allons. La baronne de Grantaire et sa fille, la marquise de Grantaire et sa fille adoptive. Monsieur
Loulotte,
Marie Quilouche et puis Monsieur Proéminent, qui était le savant un petit peu farfelu, l'ancêtre de Tournesol d'ailleurs.
Ah. Ouais.
Et
le savant Cosinus.
Et oui.
La baronne de Bonaccueil, c'est pas ça?
Non.
Madame de Bonaccueil, qui les accueille l'été.
Dans son château.
Oui.
Non, mais lisez les albums, relisez les albums.
C'est charmant.
C'est charmant.
C'est superbe.
Mais n'allez pas voir le dessin animé.
Autre nouveauté, du temps aussi passé, mais remise à nos goûts de l'actualité, signé Furax. C'est pas de la bande dessinée.
C'était quoi la musique?
Eh bien, justement, vous voulez entendre la musique?
Oui.
Écoutons.
La musique.
Signé Furax. Premier épisode.
L'histoire commence d'une façon banale, place de la Concorde, à 3h du matin. Une aventure d'ivrogne qui se déroule au moins une fois par an à Paris. Un homme agrippé aux grilles du jardinet entourant l'obélisque se croit enfermé.
Mais ça, c'est classique.
Oui, mais cette nuit-là, l'affaire prit une tournure étrange.
Ah, c'est magnifique. Hein? On a reconnu les voix de Francis Blanche et peut-être de Pierre Dac.
Pierre Dac.
C'est ça, et Francis Blanche qui est le magnifique.
Un feuilleton que la France entière écoutait entre 1956 et 1960.
Hélas.
Et oui, et bien donc, 15 CD, un coffret de 15 CD viennent de sortir.
Ça, c'est bien sûr.
Et c'est près de 20 heures d'écoute, vous vous rendez compte?
Parfait, ça.
C'est prodigieux, là, on revit le grand moment des feuilletons radiophoniques des années 50, alors, quand la radio était vraiment un art.
Alors, elle est toujours anarchiste, d'ailleurs. Vous dites quand elle était un art.
Elle
est toujours un art, un peu.
Oui, elle est un art, oui, elle est un art.
Ah oui, vous parlez de l'art. Alors, j'allais dire quelle relation, non, j'allais dire, vous permettez, c'est moi qui, bon. Alors, j'allais dire quelle relation avec la bande dessinée, mais il y avait un feuilleton dans François.
Mais bien sûr, justement, puisque
il y avait des bandes dessinées,
bien sûr, puisque ce feuilleton radiophonique. Ce feuilleton radiophonique a été adapté en bande dessinée dans François, dessiné par Henri Blanc. Mais vous savez qu'à l'époque, dans les grands journaux français comme François de la grande époque, je ne parle pas de celui d'aujourd'hui, l'Aurore, par exemple, qui n'existe plus, Paris Jour, l'Aurore,
faut bien articuler
l'Aurore, qui n'existe plus, Paris Jour et d'autres journaux, il y avait des pleines pages de bandes dessinées, de bandes dessinées pour adultes.
C'est l'avant-dernière d'ailleurs.
On n'a rien inventé.
Non.
Il y a encore des bandes dessinées pour adultes.
Oui, mais on dit que la bande dessinée pour adultes. On dit que la bande dessinée pour adultes est née en 1968.
Elle se lisse que d'une main, j'en ai peur.
Sortez, monsieur Ali, mettez-vous au fond les mains sur la tête. Bon, enfin, c'est un scandale.
Glop, glop. Et savez-vous.
Non, ça va, c'est pas la peine. On en parlera un autre jour.
C'est interdit d'antenne, non mais alors. Il a bu.
Donc, tous les jours, les Français écoutaient le feuilleton sur les antennes d'Europe numéro 1.
C'était sur Europe 1 déjà ?
Oui.
56.
Europe numéro 1, on disait Europe numéro 1 et pas Europe 1 à l'époque.
Europe numéro 1, oui. C'était le midi.
C'était le soir, et puis après, c'est venu le midi.
C'est non, le midi. Moi, j'écoutais le midi.
C'était le soir. Oui, mais vous confondez avec un autre feuilleton qui faisait concurrence avec Zapimax, notre ami Zapimax, qui vient
l'homme
régulièrement.
L'homme des vœux.
Non, mais
c'est
non.
C'est pas un feuilleton, l'homme des vœux.
Mais non, c'était pas un feuilleton.
Faut que j'ai mis mes capsules mais un de feuilleton. Martissol.
Non, Daniel, un feuilleton.
Ça existe
un
plus, feuilleton. Ça.
Qui concurrençait Furax, qui s'appelait Ça va bouillir.
Ah, avec Zapimax, voilà.
Oui,
avec Zapimax,
offert par Sunil Bleu, qui ajoute l'éclair à la blancheur.
Ah, il y avait des petites choses dedans aussi dans le...
Bien sûr, mais c'était extraordinaire cette époque des feuilletons. On n'en fait plus des choses comme ça.
C'était du temps où il y avait des cadeaux dans l'homo. Maintenant...
C'était Sunil.
Ah, Sunil.
Oui, mais c'est le même groupe, c'est le groupe Le Vert.
Ah oui, c'était Le Vert qui est dans le... Oui.
Oui.
Non, c'est bien, ça rappelle des beaux souvenirs.
Il
arrivait aussi.
Et alors?
Alors attendez, parce qu'on en est aux souvenirs anciens.
Un problème de génération.
Il y avait aussi, sur le banc.
Oui, avec Jeanne Sourza et Raymond Souplex. Et oui, sur Radio Luxembourg, tous les à midi 20.
Ah, c'était très bien.
Ça va, souvenir.
Oui, mais on a le droit d'avoir un peu de nostalgie.
Non, mais il faut dire, c'est l'histoire, de la bande dessinée à la radio. Mais il y avait des relations entre les deux. Il y avait des ponts entre les deux. Parce qu'on adaptait quelquefois la bande dessinée pour la radio. Il y a eu Tintin, Astérix, Les Pieds Nickelés, etc. à la radio. Et puis, comme pour Furax, on adaptait les feuilletons radiophoniques en bande dessinée.
Chéri Bibi sur François.
Voilà, par exemple. Et là, c'était sur France Inter, il y a eu aussi un feuilleton radiophonique.
Chéri Bibi. Les feuilletons.
Les feuilletons, c'était quelque chose d'extraordinaire. On n'en fait plus des choses comme ça. Et c'est pour ça que je disais que la radio, à l'époque, c'était véritablement un art. Mmh. Un art, et ce n'est plus. Et alors, signé Furax, la mise en onde, on disait pas réalisation à l'époque, on disait mise en onde. Vous savez pourquoi ce terme de mise en onde? C'est un nom qui a été inventé par Pierre Schaeffer, après-guerre, au studio de la recherche de... Oh, c'était pas l'ORTF, c'était la Radio Nationale. Parce qu'il voulait que la radio ait le pendant
du cinéma. Cinéma, il y a des metteurs en scène. Eh bien, lui, il a créé des metteurs en ondes.
Le pendant de...
Le pendant de Reis.
Voilà ça. Non, mais par contre, en allemand, alors je me tourne vers un spécialiste, non pas germano-pratin, mais germano-phile. Je crois que ce qu'on appelle germanophone, et pas germanophile.
Oui, on dira rien ce soir.
Non, mais là, comment on dit la mise... Il n'y a pas VLE, qu'est-ce que c'est VLE? C'est les ondes, non? C'est les ondes radio comme c'est l'onde...
Non, en Allemagne, c'est le modérateur. Celui qui...
Ah oui, qui modérateur,
qui,
oui.
Qui gère, qui organise.
Rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir.
Ah non, c'est rien.
Non, attention,
à voir.
Daniel,
le réalisateur.
Non, Daniel n'est pas réalisateur, comme, ni metteur en ondes.
Comme par exemple Franck, là. Franck, c'est le metteur en ondes, quoi.
La technique pauvre.
Oui, non, technique, mais... technique.
J'aime bien la technique. Ouais.
Grosse arbaille technique. Ouais. Très bien. Là, on a compris.
Non, maintenant à la radio, nous avons des réalisateurs techniciens, des technico-réalisateurs.
Technico, comme Franck est un technico-réalisateur.
Les derniers metteurs en ondes sont à France Culture.
Et techniciens de surface radiophonique.
Quelques feuilletons, quelques pièces radiophoniques, disons.
Voilà, continuons, ne nous lançons pas.
Donc je vous recommande ce coffret.
Le docteur Pont se demande ce qu'il est venu faire dans ce caravansera. Il dit, mais c'est pas possible, je viens pour faire une émission, je crois que c'est une émission très sérieuse. On m'avait dit que c'était un jeune homme très bien, très soigneux de sa personne, et paf, je tombe dans un...
Non, mais on parle de choses très sérieuses.
Oui, ma petite Jacqueline, que je salue, parce que Jacqueline, vous faites votre arrivée dans le studio. Oui. Tous mes voeux, ma petite Jacquelinette.
Merci. Oui. Non, un auditeur nous dit, arrêtez de faire de la pub pour la lessive au Mont. On se croirait
c'est pas
sur Radio Sumil. De la Noé.
Oh. Bon oui, mais ça, bon, d'accord, mais ça c'est bien, mais ça vient un petit peu tard.
Non, mais il faut dire que les feuilletons et les émissions sur les radios privées de l'époque étaient...
Les cifs bouillus, les cifs foutus.
Étaient patronnés par des marques.
Toujours.
Oui. Non, mais à l'époque c'était différent.
Nous saluons le départ du studio de nos amis Louis et Rémi Fontaine. Bravo pour votre travail, continuez à bien faire et revenez nous voir. Alors voilà, le docteur Ponce va se mettre devant un vrai micro, et notre ami Adlib va essayer de se mettre aussi dans un micro tout à l'heure. Voilà, mais attendez, alors continuons.
Alors pour revenir à ce coffret que je recommande à tous les auditeurs, vraiment amoureux de l'histoire de la radio, mais aussi amoureux de l'aventure, parce que Furax, qu'est-ce que c'est en définitive? C'est un mélange d'Arsène Lupin, de ce personnage-là du 19e siècle.
Arsène Lupin, oui. Ben
oui,
Lupin,
de Rouletabille, enfin... Voilà,
mais est-ce que ces gens-là ne faisaient pas une chose qui se fait d'ailleurs encore un peu à la radio, dans d'autres types d'émissions d'ailleurs moins agréables, est-ce qu'ils écrivaient pas quasiment le nouvel épisode le matin?
C'était au jour le jour, bien sûr. Pierre Arnaud Chassipoulet, qu'on pourrait peut-être inviter un jour dans ce studio, me disait que Pierre Dac écrivait le synopsis, et puis c'est Francis qui faisait les dialogues, et tout était enregistré dans la matinée.
C'est fou quand même ça.
Et il y avait un cycliste qui portait la bande d'Europe numéro 1 pour la diffusion à midi.
C'est incroyable. Et ça, c'est du boulot.
Et c'était...
Ça, c'est du vrai boulot de professionnel. Ouais. Oui.
Un auditeur nous dit que le metteur en onde, oui, du feuilleton signé Furax est Pierre-Arnaud de Chassipoulet.
J'ai oublié de le... Mais à coup de pas, j'ai oublié de le nommer. Oui. Oui, tout à fait.
On va le faire venir un jour, tiens.
Ah ben, il viendra volontiers.
Bon, alors, qu'est-ce que vous avez encore comme petite nouvelle?
Je peux vous parler, dire deux mots sur le prochain festival de la bande dessinée d'Angoulême, qui aura lieu, comme tous les ans, à la fin du mois de janvier, la dernière semaine de janvier, cette année, du 24 au 27 janvier. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Sinon, il y a peut-être une exposition à voir sur l'histoire de la bande dessinée et du sport, enfin, puis le sport de la bande dessinée. Ce qui permettra de parler d'un grand dessinateur de bande dessinée sportif qui était Pélos. Oui, il a dessiné, on parlait des pieds nickelés tout à l'heure, il a dessiné Pélos, les pieds nickelés.
Pélos, ah, oui, Pélos.
Pieds nickelés, mais d'autres. Qu'est-ce qu'il a...
Parlez bien
Pélos,
dans le micro.
Pélos, c'est lui qui faisait toutes les couvertures de Miroir Spring, par exemple.
Ah, oui, ah les beaux dessins, les trucs en marron bistre, là.
Entre autres, il y en avait un autre qui s'appelait Di Marco, oui.
Miroir du Sprint.
Mais Pélos, c'était vraiment...
Miroir Sprint.
Oui, oui. Pélos était un grand dessinateur sportif. Puis il a fait beaucoup de bandes dessinées juste après la guerre, dans le journal Zorro, par exemple.
Parce qu'il y avait un journal qui s'appelait
Zorro. Un journal
l'époque.
Grand format, oui.
On va le ressortir, ça.
Oui.
Non.
Bon, je pense pas.
Bah si, on est rentré...
Oui, d'accord. Oh là là. qu'est-ce qu'il y aura à ce festival d'Angoulême? Il y aura aussi une exposition sur les... sur les pionniers de la bande dessinée américaine, ce qui peut être intéressant, tiens.
Oui.
Oui, non, c'est pas sans plus.
Non, non, mais c'est bien. Non, mais est-ce que vous avez l'air de beaucoup aimer la Angoulême? Moi, ils sont.
Non, mais moi,
ils sont pas gentils avec mes amis.
Je n'aime pas Angoulême particulièrement.
Les ennemis de mes amis.
Non, puisque moi, je suis interdit de festival. Alors,
vous n'êtes pas le seul, hein. Vous n'êtes pas le seul.
Non. Les éditions.
Les gens interdits vont être bientôt plus nombreux que ceux qui sont invités.
Ah oui. Ah oui.
On va en créer un autre. C'est tout.
Oui. Alors, il faut aussi dire que cette année, c'est le 60e anniversaire de la bande dessinée chrétienne.
Ah,
la bande dessinée chrétienne qui est apparue pour la première fois en 1941 dans les pages du beau journal de Spirou, avec j'en ai souvent parlé sur cette antenne. Hein.
L'oncle Paul, non?
Non, l'oncle Paul, c'est après. L'oncle Paul, pardon, Paul. C'est après-guerre.
Alors, c'était
non,
avec
c'est une biographie
avec,
d'un saint.
Il est saint aujourd'hui.
Oui, Don Bosco.
Ah, ça a commencé comme ça.
Oui. Par J.G.
En 41
En 41, J.G.
Il n'a pas été interdit, le journal, à la Libération?
Non. Enfin, il a eu des problèmes pendant la guerre, il s'est interrompu, puis il est reparu.
C'est pas celui qui avait été repris par Pif le Chien, non, après?
On a vu des choses pareilles. Non, c'est Vaillant, ça, après-guerre.
Enfin, bon.
Mais on reparlera des 60 ans de la BD chrétienne prochainement.
Eh ben, c'est très bien.
Puis il y aura la remise à la cathédrale, à la cathédrale d'Angoulême, comme tous les ans.
D'accord.
Il y aura la remise des deux prix de la bande dessinée chrétienne. Parfait. Le prix de la bande dessinée chrétienne francophone, et puis le prix de du jury œcuménique.
Ouh là là. Bon, on va voir tout ça.
Oui. Non, c'est des bandes dessinées qui sont bien. Je connais maintenant les noms de ces bandes dessinées, c'est bien.
Et vous connaissez déjà ceux qui vont avoir les prix, non?
Les bandes dessinées chrétiennes, mais les autres, non.
Alors, qui c'est qui va avoir le prix?
Alors vous voulez tout savoir, là.
Ben, si vous le savez, on va pas attendre jusqu'à la fin du
mois
de janvier.
Mais nous ne sommes pas encore au mois de janvier.
Si, on est en janvier, là, on est le 2.
Alors, le prix de la bande dessinée chrétienne, c'est... j'ai oublié son nom, d'ailleurs.
Ah ben, bravo.
C'est le Pèlerin russe. Le Pèlerin russe, j'en ai parlé sur cette antenne.
Ouais.
Vous savez ce livre de l'ordre de nos frères orthodoxes?
Oui.
Très prisé par nos frères orthodoxes,
oui.
Qui est adapté en bande dessinée.
Ah bien. Et alors le récit des récits d'un pèlerin russe, non, c'est
oui,
pas
c'est
ça,
ça, c'est ça, ça, c'est, ça, ça, ouais, c'est, bon. Ça c'est ça.
Et alors le
pèlerin russe au 19e siècle.
L'œcuménique, qu'est-ce que c'est?
Alors l'œcuménique, j'ai plus le nom en tête parce que j'ai pas noté, mais c'est quelque chose qui se passe en 1932. En Allemagne.
Ah bah voilà, ça
y est. Qui nous parle, vous vous imaginez de quoi? Voilà. De la montée,
non,
du nazisme. Et c'est l'histoire d'amour entre un Allemand et une petite juive.
C'est très bien, ça c'est œcuménique, ça.
Non, mais
ça c'est un autre, ça c'est le prix œcuménique.
C'est le prix œcuménique.
Ça passe à 1932 en Allemagne au moment où, on va, c'est très intéressant.
Et de 32, 33, 34, et puis jusqu'en 41.
C'est après quoi. Voilà. Eh ben c'est très bien tout ça, dites donc, c'est Roméo et Juliette, revu et corrigé à Nuremberg.
Ouais, en quelque sorte.
C'est tout ce que vous avez à nous dire, mon bon camarade Guy, alors?
Je regarde... Ah, il y a l'histoire de la Grande Chartreuse, faudra qu'on en parle prochainement avec
l'auteur. Avec notre camarade
Laurent Bidot, éditeur
du Triomphe. Bon, magnifique dessinateur.
Une bande dessinée policière qui m'a beaucoup plu, j'en avais fait un article dans L'Homme Nouveau il n'y a pas longtemps. Avec des ambiances un petit peu à la Doineau et à la Jacques Prévert. Ça s'appelle L'Agence Hardy, Le Parfum Oublié, scénario Pierre Christin, dessin Annie Götzinger.
Je connais pas du tout.
C'est très bien. Ça se passe dans les années 50. Nostalgie encore,
vous allez me dire.
Mais il y a une reconstitution du 13e arrondissement avec la Halle aux Vins, c'est vraiment remarquable.
C'est bien fait.
Ah, c'est bien fait.
Ouais, à ma génération, c'est Le Parfum de l'Invisible qui avait frappé les imaginations.
Puis il y a un petit relent de guerre froide aussi là-dedans. Hein. C'est bien dans ce bande dessinée.
Très bien. Bon, quand monsieur a dit
peut-être encore une bande dessinée que je recommence, ça s'appelle La Confession. C'est l'histoire d'un prêtre dans les années 50 aussi. C'est un tome 1 d'une série. C'est illustré par Christian Demeter. C'est très très bien. Je recommande aux auditeurs. C'est de la bande dessinée peinte.
D'accord.
Alors vous pourriez me poser la question, qu'est-ce que c'est que la bande dessinée peinte?
J'osais pas.
Mais ben, s'il faut. Eh bien la bande dessinée, c'est un dessin qui est cerné d'un trait noir et puis il y a de la couleur.
Oui.
Généralement à plat. Eh bien là, non, c'est de la peinture.
C'est peint.
C'est de l'illustration sans trait noir cerné.
Tout peint.
Oui. Ben c'est très très beau. Il y a des ambiances qui sont vraiment très très bien.
Alors vous nous faites venir la Grande Chartreuse là,
oui,
bientôt là.
Laurent Bidot, quand vous voulez.
Le dernier mercredi de janvier.
Je suis en vacances, début... février.
Ah, très bien, février, c'est février. Très bien, j'aurai sans doute l'émission. Voilà. Merci mon bon camarade Guy. Voilà. Alors, c'était très bien tout ça. Merci pour tout ce que vous avez fait. On a appris beaucoup de choses.
Et vous avez entendu le premier épisode, ah, oui, début de Ciné Furax.
Ça, c'est quand même... On pourrait pas s'en remettre...
Un petit bout.
Hein, Franck, on pourrait s'en remettre une petite lichette, Franck. Peut-être le début, là.
Pour entendre Maurice
Signé
Biron.
Furax. Premier épisode.
L'histoire commence d'une façon banale, place de la Concorde, à 3 heures du matin. Une aventure d'ivrogne qui se déroule au moins une fois par an à Paris. Un homme agrippé aux grilles du jardinet entourant l'obélisque se croit enfermé.
Ça, c'est classique.
Oui, mais cette nuit-là...
Voilà, un petit coup de Furax, nostalgie. Bon, très bien. Alors, merci mon cher camarade Louis. Donc, début février, on se voit avec Bidot et on parle de cette nouvelle bande dessinée. Donc, autour de la table, il nous reste, parce que je les épuise petit à petit, donc il y a encore Ouvre de Soicourt, dans l'ordre d'arrivée, Yves-Marie Adeline, notre ami le docteur Ponce et le duc de Clermont-Tanner. Alors, Soicourt, vous souhaitiez parler d'un bouquin dont vous avez... Ben, qu'est-ce qui se passe?
Non. Ah, bon. Non, je lis un message d'un auditeur, c'est pour ça que...
Qui vous félicite.
Tout à fait raison. Il parle de la loge noire de chez Glénat.
Ah, très bien.
Ça, c'est pour les initiés.
Oui, ben alors, j'aimerais
savoir. Non, c'est parce que Glénat publie actuellement une bande dessinée sur l'histoire plus ou moins de la franc-maçonnerie, c'est pour ça.
Ah bon? Ah, ben, c'est intéressant.
Ça s'appelle Le Triangle Secret.
Très bien.
Une bande dessinée très, très anti-chrétienne, ça je peux vous le dire.
Ah, ça c'est bien tout ça. Allez, alors, donc, rapprochez-vous du micro. Vous souhaitiez nous parler un peu d'abord d'un journal qui reparle, alors.
Oui, tout à fait, le Légitimiste repart.
Vous aussi, mais ça fait une semaine, il repart pour de bon, là, ça y est.
En principe, selon le routeur, le Légitimiste part à la poste demain.
Bon. Il sera mis à la poste demain.
Donc il sera mis à la poste demain, donc on a bon espoir que les abonnés...
Ce sera là pour Pâques.
Et la question des lecteurs, c'est tous ceux qu'on n'a pas eu, on les aura quand même.
Ah oui.
Parce qu'on est un peu en manque.
Voilà, non, la collection sera complète.
Mais vous n'êtes pas tout seul à être en manque, manifestement, parce qu'on reçoit peut-être au moins 20 ou 30 coups de téléphone par jour pour demander...
Alors,
c'est des lecteurs sevrés, mais donc ça repart, et découvrir d'ailleurs.
Pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne connaîtraient pas le Légitimiste, il peut s'en trouver puisqu'il est des auditeurs tous les jours.
Il peut s'en trouver.
Qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Alors ils peuvent découvrir Légitimiste.
À part prier pour que la poste achemine le courrier.
Ils peuvent découvrir Légitimiste par un abonnement découverte. Alors, je suis absolument navré, mais nous n'avons pas attendu le 17 février pour passer à la monnaie unique. Et donc, le tarif de l'abonnement découverte est de 9 euros. Ce qui représente quand même un gain d'à peu près un peu plus de 50% par rapport à l'abonnement normal.
Bah, dites donc, c'est beaucoup.
Donc, 9 euros pour 10 numéros par mois.
Alors, 9 euros. 10 numéros. Pourquoi vous n'avez pas fait 10 euros 9 numéros? Ça vous aurait apporté davantage de sous. Alors c'est 9 euros 10 numéros.
Voilà. C'est joliment résumé.
Alors
grand public.
Il faut écrire où?
Alors 22 rue Didot, D-I-D-O-T, dans le 14e arrondissement de Paris. Ou alors par téléphone au 01 45 41 29 29. 01 45 41 29.
D'accord. Et il faut faire le chèque à l'ordre de qui?
Sicre. Sicre comme le sacre, mais avec un I à la place du A.
Très bien. Voilà. Alors, vous vouliez nous parler un petit peu de ce livre, Honoré de Lourdoux-Aix.
Oui, c'est un livre qui est déjà paru depuis plusieurs mois, mais nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler dans les émissions précédentes. On profite un peu d'une émission longue de fin de vacances pour évoquer les... Ça fait partie des dadas que nous avons ici. La Révolution, l'orléanisme et ce genre de sujets amusants.
Il y a des gens à table, hein. C'est pas très poli ce que vous faites. Moi.
Non, pas encore. Ah si, c'est vrai. Oui. Avec le décalage horaire surtout. Donc la Révolution, c'est l'orléanisme qui est d'un confrère aîné dans le légitimisme, Honoré de Lourdoux-Aix, qui dirigeait la Gazette de France au 19e siècle.
Très connu.
Un très bon quotidien d'un légitimiste. Et cet Honoré de Lourdoux-Aix a donc écrit un ouvrage, en fait, pour montrer Donc, tant qu'il y aurait des orléanistes, c'est une pierre dans le jardin du compromis royaliste, mais tant qu'il y aura des orléanistes, il y aura des révolutionnaires, oui. Puisque l'orléanisme est une révolution à l'intérieur même de la Maison de France. Donc, et si nous combattons l'orléanisme, c'est pas d'abord parce que nous avons des goûts exotiques, c'est parce que nous sommes contre-révolutionnaires. Donc Honoré de Lourdeux a aussi un avantage, c'est qu'il réunit un certain nombre de documents assez savoureux, puisque comme vous savez, les orléanistes nous traitent souvent d'étrangers ou d'espagnols. Là, on constate avec satisfaction que...
On est dans l'espace de Schengen tous, hein, faut pas qu'ils commencent on va leur foutre un procès, hein.
D'ailleurs, effectivement, c'est passible de la 17e forme de...
Bah, et comment?
Ce nonobstant, Lourdeux réunit un certain nombre de documents assez amusants qui montrent que certains princes d'Orléans ont offert leur service à des rois étrangers contre la France. Donc ils ont offert de porter les armes contre les armées françaises, qui pour des princes nationaux est assez
coquin. Des noms.
Notamment Louis-Philippe Ier, dit roi des Français, a servi dans les armées, je crois, espagnoles.
Ah bah alors.
On peut pas parler de blancs d'Espagne dans leur cas puisqu'ils sont pas blancs, mais
non, mais
c'est d'Espagne quand même.
Là on ça fait des rapprochements, c'est bien.
Ça peut faire des rapprochements. Mais j'espère bien. En fait, un de nos passe-temps favoris avec Daniel Aniche, c'est de.
Me mettez pas dans ce coup-là, s'il vous plaît. Que moi, il semble encore que réside chez moi un semblant d'objectivité de Monsieur Loyal de la radio.
Mais vous êtes objectif. Il reste que l'orléanisme est révolutionnaire.
Ah bah ça
c'est
clair,
objectivement des ça historiques. C'est d'ailleurs, je pense pas qu'Yves-Marie Adeline, ici présent, puisse nier le fait.
Je ne cache à personne le fait que je sois légitimiste moi-même.
Donc vous êtes anti-orléaniste.
Je dis simplement pour faire une dynamique politique contemporaine actuelle de l'Agence royale, oui. Il faut transcender les querelles. Mais je ne vais pas pour autant renier mes
donc c'est bien ça, vous êtes propres origines. Vous êtes légitimiste et anti-orléaniste.
Hein. Bah, je considère...
Tiens, donnez-moi l'adresse. Donnez-nous donc l'adresse de votre Alliance royale, parce que je préférais que les messages aillent chez vous plutôt qu'ici, je ne vais pas avoir le temps de les lire. Alors c'est dans, au fait, parce que vous avez changé d'adresse récemment,
oui,
je pense.
Oui, on est au 17 rue des Acacias, dans le 17e, donc c'est très facile à...
Alors, 17 rue des Acacias.
Dans le 17e.
Dans le 17e.
Très facile de s'en souvenir, parce que c'est Acacia, 17, c'est fastoche, 17e, oui. 17 rue des Acacias, dans le 17e.
Voilà. 17 rue des Acacias. Oui, l'Acacia, bien évidemment.
Ah, c'est un symbole maçonnique.
L'Acacia. La branche d'Acacia.
Ça vous poursuit. Je peux vous dire, ça me poursuit, parce que l'Alliance royale et les maçons...
Ah, bah oui.
Enfin bon, c'est quand même fait partie des joies de la vie politique.
Alors, vous avez encore des commentaires à faire, parce que c'est intéressant.
Sur Lourdeux, en fait, le plus simple, c'est que les auditeurs le découvrent en le lisant, et donc ils pourront...
Alors, ils peuvent le consulter à la Bibliothèque Nationale, parce que je crois que vous faites un dépôt légal de vos livres. Mais alors, plus pratiquement,
très simplement, le plus simple, c'est quand même de l'acheter. Et d'ailleurs, la plupart des éditeurs éditent les livres pour qu'ils soient achetés. Et comme nous sommes aussi éditeurs, nous en profitons.
Non, il y en a qui font. C'est pas des livres pour acheter, c'est pas des livres pour lire, c'est des livres pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. C'est le bon.
Donc, Honoré de Lourdeux a été édité chez Sicre, donc toujours 22 rue Didot, 75014 Paris.
J'ai l'impression que c'est un nid là-bas, non?
C'est une antre.
C'est un nid.
Oui, effectivement, c'est une adresse recommandable à la plupart des auditeurs de Radio Courtoisie. Donc, si les auditeurs en question sont payés par le réseau Voltaire pour écouter la radio, c'est peut-être pas indispensable qu'ils se déplacent, mais parce que
ils peuvent commander par correspondance.
mais en revanche, s'ils veulent découvrir le royalisme traditionnel, qu'ils n'hésitent pas à se déplacer.
Et alors, cette petite gâterie, ça vaut combien alors?
Alors, ça vaut 139 francs, puisqu'on a encore le droit. 139 francs, et si les calculs sont justes, ça doit faire 22 euros, oui.
Tout juste 22 euros?
Non, c'est un peu...
Faut que ce soit au franc près. Hein.
22 euros, parce que c'est plus simple.
Bon, 22 euros. Alors, 22 euros, Honoré de Lourdeux,
un titre magnifique, La Révolution, c'est l'orléanisme, avec une savante et savoureuse préface de Duc de Soicourt, directeur de la rédaction de Légitimiste.
C'est une sorte d'hommage à un prédécesseur.
L'hebdomadaire, voilà.
Le seul hebdomadaire royal, royaliste en France.
Voilà, oui, alors Monsieur Yves-Marie Adeline, qui aime bien soigner ses relations publiques, me signale que demain, il passe encore sur Radio Courtoisie.
C'est toujours pour Sicre, c'est pour soigner les relations
publiques.
Ah oui,
d'accord, très bien. Sicre. Est-ce que vous êtes invité demain en direct? Vous savez être enregistré,
non,
à 10h45.
Oui.
Non, c'est un enregistrement, ça. Ah bon, c'est de l'enregistrement, ah bon. Non,
j'y connais rien.
Je crois que c'est de l'enregistrement, oui, mais ce sera pour plus tard, ça va être diffusé beaucoup plus tard. Ce sera diffusé, je ne sais pas quand. Et vous allez parler d'un recueil de poèmes de vous paru.
Oui.
Vous voyez, de belle marquise, vos beaux yeux. Alors, qui s'appelle L'Épouse.
Ouais.
Qui est consacré à votre épouse, d'ailleurs.
Voilà,
c'était on apprend beaucoup de choses sur votre épouse, je dois dire.
Oh, vous êtes vache.
Bah non, j'ai pas dit. Non, c'est très joli, c'est très joli, c'est de jolies petites choses. Voilà, édité chez Sicre, qui dit aussi de la poésie d'Adeline. Ben oui, mais c'est Annie. Et Tani. Bien, nous allons passer maintenant à des choses non pas plus sérieuses, mais aussi sérieuses, puisque notre ami le docteur Jean-Yves Ponce, je peux vous dire notre ami, hein, vous n'êtes pas choqué, bon, il faudra que vous reveniez nous voir d'ailleurs, parce que vous avez mené une bagarre, vous aviez mené une bagarre il y a un an, un peu plus d'un an, hein, à propos de, c'est une chose qui peut aussi intéresser notre ami le duc de Clermont-Tonnerre, qui est vice-président de l'Institut de la Maison de Bourbon, que j'ai mené une bataille à Vincennes au sujet des questions héraldiques, parce que je pense que la mairie voulait substituer à la composition héraldique traditionnelle un espèce de logo payé à prix d'or et qui va se démonétiser beaucoup plus vite que l'or. C'est tout à fait vraisemblable. Mais nous en parlons peut-être une autre fois, si vous avez la gentillesse si vous voulez bien faire le plaisir de revenir une fois, on en parlera de ça, parce que j'ai les trucs d'héraldique, un jour on va en parler, j'ai beaucoup de sujets là-dessus.
Simplement, je dirais un mot à ce propos, c'est
bien sûr.
L'affaire n'est pas encore close, mais en réalité il ne s'agit pas d'un logo au sens où on l'entend aujourd'hui, au sens où on en voit beaucoup, hélas, aujourd'hui, puisque la municipalité de Vincennes a eu, malgré tout, dans cette quête de modernité, a eu le bon goût de faire, probablement à prix d'or, comme vous l'avez dit, un nouveau symbole héraldique de la ville de Vincennes, qui reprend d'ailleurs d'une manière pas très éloignée le blason de Vincennes, mais malgré tout suffisamment loin pour que ça mérite que nous croisions le fer, ou que ça ait mérité, oui, que nous ayons croisé le fer. Mais nous allons en fait y revenir tout à l'heure
à propos de votre association. Est-ce que vous lancez
qu'il n'y ait pas de lien de cause à effet?
Alors, vous lancez une association, là, c'est tout raison, les statuts, oui, viennent d'être déposés, qui s'appelle le Cercle Jacques Bainville. Vous savez que sur Radio Courtoisie, on a une grande admiration pour ce... on peut dire que c'est quand même le plus grand historien français.
C'est en tout cas un des plus grands historiens français.
C'est le plus grand. Alors, il y a une actualité, c'est vraiment intéressant de faire un cercle. À quoi ça va pouvoir servir? Est-ce que vous pensez... Qu'est-ce que vous croyez faire avec cette association?
L'objectif essentiel est dans une ville comme Vincennes, qui est une ville quand même chargée d'histoire. Enfin,
c'est
quand même une ville royale, c'est une ville importante où la population y est nombreuse. Le site est, ma foi, assez sympathique.
Parlez bien près du
nous
micro,
avons
docteur.
Un château que chacun connaît et qui ne manque pas d'intérêt, que je vous engage d'ailleurs à visiter quand il pourra l'être, parce que le donjon est en mauvais état et en cours de réparation. Quant à la Sainte-Chapelle, elle a beaucoup souffert de la tempête. Et l'Institut de la Maison de Bourbon le sait bien, puisque j'ai eu l'occasion d'ailleurs de participer un peu, de solliciter des aides pour ces réparations. Donc à Vincennes, nous n'avions pas d'association, je dirais, à but historique, c'est-à-dire pour faire connaître un peu certaines données de l'histoire. Il y a certes une association très très ancienne qui remonte au 19e siècle, qui s'appelle la Société des Amis de Vincennes, mais regarde à mon sens un peu trop derrière et pas assez devant. Or, chacun sait que la pensée de Bainville était
différente de cette conception de l'histoire.
Quasiment prophétique.
Voilà.
Il y a des égards, oui.
Et il m'a semblé intéressant de mettre sur pied cette association, de regrouper des gens passionnés par ces choses dans un esprit différent. Alors, en fait, j'ai été aidé dans ce projet par le fait que Jacques Bainville, dont vous avez vanté les mérites à juste titre, est un enfant de Vincennes, puisqu'il est né à Vincennes en 1879, en février 1879. Il est mort à Paris également en février 1936, quand même date importante, le 6 février 1936, date très importante. Et donc il a passé une assez grande partie de sa vie à Vincennes. C'était donc à mes yeux un symbole important sur tous les plans. Alors l'objectif n'est pas de commémorer la mémoire de Jacques Bainville. Bon,
l'objectif c'est de s'inspirer
de la méthode, enfin de la méthode historique de Jacques Bainville que chacun connaît, enfin, qui est quand même un homme d'ailleurs controversé d'une certaine manière. Il a été maurassien, certes, mais il a eu quelques débats, pour le moins, avec Charles Maurras. Il est mort assez jeune, finalement, un peu trop jeune pour qu'on sache réellement ce qu'il serait devenu, si je puis dire. Enfin, c'est un historien et, je devrais dire, presque plus un journaliste, car il a été davantage journaliste qu'historien, d'une certaine manière, par rapport à Fernand Braudel, par exemple, enfin. Mais ça a été vraiment l'homme de son temps. Et l'objectif de notre association, du cercle donc du même nom, c'est au fond d'avoir à la fois, comme Nietzsche l'avait dit, l'avenir appartient aux peuples qui ont la mémoire la plus longue. Donc ça, c'est une référence, et Dieu sait que Nietzsche a une influence importante pendant les débuts de la carrière de Jacques Bainville, sur Jacques Bainville. Sur la pensée de Jacques Bainville. Mais également, nous voudrions nous tourner vers l'avenir, sachant que, après tout, l'histoire, nous l'écrivons tous les jours. Ce n'est pas que l'histoire de France traditionnelle, le passé, dont d'aucuns ont voulu faire table rase, comme vous savez. Alors ça, c'est pas du tout dans nos objectifs. Mais nous voudrions aussi traiter des problèmes contemporains.
Thème d'actualité, voilà, problèmes contemporains.
Thème d'actualité. Et donc, si vous le souhaitez, je pourrais vous donner une idée de nos projets.
Oui, bien sûr.
De cette
c'est surtout
année.
Pour les auditeurs et notamment ceux qui habitent Vincennes.
Alors, l'objectif, bien sûr, est de réunir des Vincennois, tous ceux qui seront intéressés, mais également dans la région proche, telles que les communes environnantes. Il y en a tout de même de nombreuses et qui toutes n'appartiennent pas à la ceinture rouge. Il y a donc beaucoup de personnes probablement intéressées par ces sujets. Nous avons choisi volontairement une formule différente de ce que l'on fait habituellement dans les associations de toutes sortes. C'est-à-dire que nous ne voulons pas de conférences, cours magistraux, une estrade, un orateur et des gens assis dans des fauteuils. Nous avons volontairement choisi comme mode de fonctionnement les dîners-débats. Parce que ça joint l'utile et l'agréable, les nourritures terrestres et spirituelles, enfin bon, les choses intéressantes. Je ne doute pas qu'ici même certains seront tentés par quelques participations.
Bon, je préfère le dîner au débat, mais enfin bon.
Mais rassurez-vous, le dîner suivra toujours le débat. Donc des dîners-débats, pour le moment nous avons des objectifs assez modestes, d'une réunion par trimestre, pour développer, tester un peu l'intérêt des gens pour
la formule.
Notre formule, voilà.
Quels sont les premiers thèmes? Vous avez déjà une idée?
Oui, bien sûr. Alors, les dîners débats, un dernier mot là-dessus, se tiendront à Vincennes, dans un restaurant, bon, qui sera indiqué, bien sûr, aux gens qui demanderont à y participer. Mais enfin, c'est un coin fort sympathique, face au château, et je dirais même mieux encore, face à la statue de Saint-Louis, qui est à l'angle, enfin, à l'un des angles du château de Vincennes. Nous avons également le projet d'une journée annuelle du cercle, journée annuelle consacrée essentiellement à un thème historique et un thème du livre historique. Donc, je pense que beaucoup d'éditeurs de livres d'histoire pourraient être intéressés par cette proposition. En particulier, je pense que la première journée, dont la date n'est pas encore fixée, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous débutons. C'est une journée annuelle, nous avons encore un peu de temps pour l'organiser, mais je tiens beaucoup à ce que la première journée soit consacrée à un thème qui m'est cher et que j'aimerais voir d'actualité, qui est la Renaissance héraldique. Je rejoins donc vos propos de tout à l'heure, en ce sens que il me paraît essentiel, y compris pour tout ce dont nous avons parlé ce soir, essentiel d'en finir un peu avec cette mode des logos qui se déprécie aussi vite que vous l'avez dit, et de revenir à des choses qui s'enracinent dans notre histoire. Et l'héraldique, je crois, en est un exemple. Et le titre de cette journée pourrait être, enfin c'est presque une plaisanterie, mais me paraît pas inintéressante, pourrait s'appeler le blason ou les blasons des armes qui ne se taisent jamais, par exemple. Mm-hmm. C'est bien pour dire ce qu'il y a derrière au fond. Bon. Donc voilà une idée de journée. Alors, en ce qui concerne le programme lui-même de l'année, bon, nous avons déjà défini de façon certaine les deux premières réunions qui se tiendront le mardi 5 mars. Et cette première réunion a valeur de symbole parce que il s'agira d'un hommage à l'œuvre historique de Robert Louis. Certains ont peut-être connu Robert Louis,
qui était un très grand
artiste héraldiste, qui est né en février 1902, nous commémorons donc le centenaire de sa naissance. Ouais. Et il est mort en 1965. Or, nous avons la chance à Vincennes d'avoir sa fille Mireille Louis, qui a continué l'œuvre de son père, qui est une amie, et je m'honore d'être un de ses amis, qui a continué l'œuvre de son père avec les mêmes principes, les qualités artistiques de son père que sûrement certains connaissent. Et elle nous fera donc un exposé sur le parcours de son père, et elle sera accompagnée dans ce parcours par un héraldiste que vous connaissez probablement aussi, qui est Michel Pastoureau, qui est professeur à la Sorbonne, et qui a écrit de nombreux ouvrages sur ces thèmes, et qui est, comme je le suis moi-même, un admirateur de Robert Louis. Donc nous rendrons hommage à un Vincennois illustre, Robert Louis.
Au programme.
Donc ça, ce sera le mardi 5 mars.
Alors moi, ce que je vous suggère, mon cher docteur, c'est que vous aurez un autre dîner débat au mois d'avril ou au mois de mai.
Oui, le mardi 4 juin.
Le 4 juin.
C'est par trimestre.
Alors, ce qui sera très bien, c'est que vous reveniez me voir à la fin du mois de mars pour dire un peu ce qui s'est passé au cours de votre premier dîner débat, et puis que nous annoncions donc le suivant, parce que là le temps commence à nous être un tout petit peu mesuré, donc ce n'est pas pour écourter notre conversation très agréable, mais il faut qu'il y en a d'autres, on doit parler, comme moi je parle beaucoup, alors c'est dramatique. Alors on pourrait peut-être quand même une chose qui est importante, c'est que le cercle Jacques Bainville. Je donne donc son adresse postale, qui est donc au 174 rue de Fontenay, 174 rue de Fontenay, 94 300 Vincennes. 94 300 en euros, ça fait combien? Soit pour au lieu de rire. Bon, 94 300 Vincennes. Voilà. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si des gens souhaitaient, ou il faut qu'ils écrivent?
Je pense que le mieux pour l'instant, c'est qu'ils écrivent. Et effectivement, il y aura un numéro de téléphone et probablement assez vite un site internet.
Alors certes, Jacques Bainville, 174 rue de Fontenay, 94 300 pour la création de ce cercle qui me semble très intéressant. Et une bonne chose à aider et à soutenir. Jacqueline, vous avez des messages?
C'était concernant un auditeur, concernant la mutilation des bras de la statue de Saint-Louis à Vincennes.
Oui, il y avait eu
Pouvez-vous nous donner une explication?
Je pense que la main, docteur Ponce, je crois que la statue de Vincennes la statue de Saint-Louis à Vincennes avait été un petit peu vandalisée. On lui avait cassé des doigts ou une main ou les deux bras.
Carrément,
la main.
Elle a été réparée.
C'est réparé. Oui, voilà.
Alors en euros.
Oui.
Ça fait 14 000 le numéro de...
Numéro de code postal?
Oui.
Non.
14 300.
Bon, on va pas...
Mais quelle horreur. Quelle horreur.
C'est terrible. On va nous greffer ça dans la tête bientôt, une calculette. Mon cher Duc de Clermont-Tonnerre, vous êtes vice-président de la Suisse de la Maison de Bourbon, qui est une association culturelle et historique qui a pour vocation d'être d'entretenir la mémoire des Bourbons, leur histoire, leur actualité, de patronner des activités, de travailler à des œuvres de restauration, et vous êtes reconnu d'utilité publique. C'est quand même très bien pour une association, disons, plutôt traditionnelle, qui n'est pas franchement bolchevique.
Elle a 30 ans, cette association, donc c'est quand même déjà un certain âge, un âge presque canonique. Et effectivement, elle a été créée avec le soutien du duc d'Anjou et de l'époque, qui était le prince Alphonse. Et aujourd'hui, c'est, je dirais, que celui qui est le président d'honneur, qui est quand même effectivement éclaire et soutient et doit être le porte-valeur de cette association, c'est le président d'honneur, le duc d'Anjou actuel, qui est donc Louis,
le prince Louis. Alors, vous avez deux bonnes nouvelles à nous donner. D'abord, vous annoncez la venue.
Alors, nous n'avons que des bonnes nouvelles, effectivement.
Du prince au mois de janvier. Alors, dites-nous en plus.
Eh bien, le prince, effectivement, vient le 20 janvier pour la messe qui est donc lieu à la chapelle expiatoire à 10h30. Comme chaque année, ou le 20, le 21, le 22.
Ça dépend des
années. Un petit peu. Alors, effectivement, il y aura le 21 à Saint-Denis une messe, mais je dirais que la messe où sera présent le prince Louis sera effectivement le 20 janvier à 10h30, où là, effectivement, tout le monde absolument est bienvenu, et au contraire, il faut que ce square soit plein, même s'il fait un peu froid.
Oui, bon, il sera peut-être
on a connu plus froid.
On l'a connu très
froid. Deux paires de chaussettes.
Mais bon,
ça passe. Et effectivement,
donc c'est à 10h30. La messe est donc, je le dis bien parce que beaucoup d'auditeurs vont appeler, envoyer des fax. Alors quelle heure? Alors
rappelle,
c'est
10h30.
Dimanche 20 janvier
à 2002.
À 10h30, chapelle expiatoire, square Louis XVI, donc rue d'Anjou, ça tombe bien. Voilà. Bon.
Et donc, il sera présent, donc, notre prince. Et après, il y a un déjeuner auquel les gens peuvent s'inscrire. Et là, effectivement, il faut qu'ils demandent un petit bulletin de participation à l'IMB, qui est donc l'Institut de la Maison de Bourbon, qui est situé 81 avenue des Bourdonnais, dans le 7e. Donc, 81 avenue des Bourdonnais, s'ils veulent déjeuner après la messe. Parce que comme on a eu très très froid, il faut boire un peu de vin rouge.
Oui, ça fait pas de mal.
Donc ça remonte, ça fait un peu tourner le sang. Et puis s'ils veulent, ils peuvent aussi appeler au téléphone au 01 évidemment 45 50 20 70.
Alors on va le redire
lentement.
Oui,
01 45 50
oui
20 70. Donc si on veut, on écrit au 81 avenue des Bourdonnais,
Paris 7e.
Ou alors au 01 45 50 20 70. Et donc, il y a un déjeuner qui est au cercle interarmé...
Cercle des armées, juste à côté. Oui, c'est à côté, à Saint-Augustin.
Saint-Augustin,
voilà. C'est à 100 mètres
à pied. Quoi.
C'est très, très pratique. Puis en plus, les salons sont très beaux. Alors ça, c'était la première bonne nouvelle. Donc, le duc d'Anjou sera à Paris.
Il sera là.
Le 20 janvier.
Il y aura un échange de vœux, plein de belles choses.
Très bien, très bien, très bien. Alors, d'autres nouvelles vous avez, parce que vous êtes le dernier à l'avoir vu, ce jeu. jeune duc d'Anjou, puisque j'ai appris que vous étiez quelques jours, il y a 10 jours, vous l'avez rencontré.
Mais vous êtes au courant de tout.
Les journalistes sont des gens très bien informés.
Mais vous m'impressionnez, par contre. C'est plus de la culture, c'est de l'espionnage.
Oui, je mêle très bien les deux. Puis moi, ce qui est bien, comme journaliste, je peux tout savoir sans torturer les gens. Mais je peux aussi les torturer.
Oh, c'est vous savez faire les deux. Non, mais, voire même pire.
Alors raconte-nous, qui est ce jeune homme? Parce que pour beaucoup d'auditeurs, il est connu, mais pour beaucoup d'autres, il ne sait pas qui c'est.
Le prince Louis est quelqu'un de extrêmement dynamique et jeune, qui a effectivement 27 ans, 28 ans, et qui aujourd'hui travaille effectivement, puisque il faut bien qu'il paye sa croûte, et vit en Espagne pour une partie du temps, et puis le reste du temps on passe autour de quelques activités, je dirais, en France, en Italie, aux États-Unis ou ailleurs, si t'es invité ailleurs.
Il travaille dans quel type de...
Il travaille dans une banque, qui est une banque française. Donc à la bonne heure, il travaille à la BNP Paribas et il est, très sollicité dans son métier. Et il marche fort bien, ce qui est bien. Et malgré tout, il a aussi une vie, je dirais, à côté de la vie professionnelle, qui est une vie liée à ce qu'elle représente et qui, effectivement, le sollicite beaucoup.
Et ça, il l'admet volontiers. Enfin, il n'a pas de réticence. Il est
Bien sûr que non. Il est tout à fait conscient que ce dont il a hérité de par sa naissance le pousse à être là où il est et qu'il a une mission en France, il a une mission en Europe, mais d'abord une mission en France, parce que les Bourbons ont quand même fait la France avant de faire l'Europe. Quand même, n'oublions pas. Donc, il est là pour, je dirais, pas seulement servir la France, mais pour être un des porte-valeurs, un des flambeaux, je pense, dans les années qui viennent. Il est jeune et il demande aussi, effectivement, que la jeunesse soit là. Et il faut qu'il sente aussi un petit peu un vent de soutien. Il n'y a rien de plus triste que les jeunes n'osent pas venir le 20 janvier. Oui. Il faut qu'ils viennent.
Au moins pour la messe.
Bah, bien sûr.
Parce que pour la messe,
en plus, la quête, on peut pas payer un euro, on peut payer en ce qu'on veut.
On peut payer, on peut même...
Ce qu'on veut. On peut même en piquer un peu dans la quête. On peut pas dire ça. Mais avec deux plats de chaussettes. Hein. J'insiste sur les chaussettes.
Quels sont ses goûts, enfin, à part son travail et puis le sens du devoir qu'il doit nécessairement avoir, comme vous le dites. Il a des goûts particuliers.
Je crois que, de manière, sa famille a naturellement été toujours assez admirative aussi des gens qui se dépassaient par le sport. Et donc, il a effectivement toujours poussé assez loin ses compétences. Il est professeur lui-même de ski. Il est moniteur de ski. Il est donc extrêmement doué en ski. Il est capable de faire du hockey sur glace. Il a une équipe, je crois, de Madrid de hockey sur glace. Il est extrêmement sportif et doué.
Alors, ses études, qu'est-ce qu'il a fait comme école avant?
Il a fait des études d'économie. Il fait un MBA aujourd'hui, en plus. Donc, pour parfaire, comme s'il n'en avait pas assez fait, il veut encore remettre une petite couche. Effectivement, aujourd'hui, il fait un MBA en plus de son travail chez Paribas.
Mais alors, il parle le français.
Il parle comme vous et moi le français. Dieu soit loué. Comme ça, on dit Dieu soit loué, non? Ce matin, au début de l'émission, vous n'aviez pas le droit de dire Dieu soit loué, je crois. J'ai entendu qu'il y avait des gens qui râlaient en disant qu'on parlait trop du bon Dieu.
Ah, oui.
J'étais très étonné. Alors, j'étais dans mon bureau, donc j'ai coupé la radio.
On sait d'où ça vient, ceux qui n'aiment pas qu'on parle du bon Dieu. Oui, bah, attendez, ma petite Jacqueline, vous vouliez dire quelque chose.
Oui, monsieur le duc de Clermont-Tonnerre serait-il présent le 20 janvier à la chapelle expiatoire au déjeuner au cercle des armées?
Oui, mais je serai là accessoirement, c'est pas moi, je ne suis pas important, c'est bien le prince Louis qui sera là.
Voilà, mais vous y serez aussi.
Enfin, j'y serai bien évidemment, mais il y a d'abord le président de l'IMB, qui est très important, le duc de Bourbon, qui est là, il n'y a pas qu'un duc, il y a plein de ducs.
Donc c'est le seul jour où vous travaillez, vous, alors
C'est le seul jour,
c'est le seul jour où on travaille le 20 et le 21, deux jours par an.
En plus, il y a le mort de Marie-Antoinette, comme et puis il y a un peu la Saint-Louis, ça, non, il y a plein de jours comme ça.
Non, je veux dire, quand je posais cette...
Que je vous le dis comme ça. Non, mais l'histoire de France, ça commence pas en 92. Ou en 2002, bientôt. Entendre Jospin, l'histoire de France commence en 2002.
Le 17 février 2002.
Ah oui, le jour où il a payé sa baguette.
Voilà, exactement.
Il y a encore un petit message à nos auditeurs. Pourquoi le citoyen Sylvain Anjou ne se présente-t-il pas au présidentiel comme son camarade Bulgakov?
Bulgarov,
qui c'est ça, Bulgarov?
Siméon Bulgari, je sais pas.
Ah, le Bulgare. Ah, bon, ça, c'est ça, c'est chacun, chacun sa stratégie, hein.
Voilà.
Parce que la France, bon, voilà, puis nous, là, on a beaucoup de respect pour la Bulgarie, c'est un très beau pays, mais enfin, bon, je veux dire, voilà, c'est son cousin très
proche d'ailleurs. Mais
bon, on peut pas comparer.
Les deux situations sont incomparables.
On peut pas comparer la France et la Bulgarie.
Mais Siméon est roi, je veux dire. Enfin, il a été roi, il a été enfant. Il y a une mémoire beaucoup plus récente. Il y avait peut-être au véritable sens du terme une.
Alors on nous fait signe qu'il nous reste 5 minutes, donc simplement je voulais encore quelques petits détails biographiques sur ce jeune prince. On m'avait dit il a fait ses études au lycée français
Oui, au lycée Molière, non pas le Molière, le lycée français. Le lycée français. Il n'y a que 4000 élèves, ce qui est quand même pas mal.
C'est une petite entreprise.
C'est une petite boutique.
D'accord.
Et effectivement, il a une culture française. Il a une culture française. Il lit qu'en français, il regarde la télévision, il lit les journaux, quoi, zut, il est français, quoi. Il aime la France, je pense que.
Bon, dites-le parce que quand les moi gens, je le dis.
Il vous croit pas.
On vous croit pas.
Vous
si un duc le dit, il faut quand même finir par croire.
Il faut se méfier des ducs, mais.
Surtout quand on est anglaise.
Non, mais ça, justement.
On nous demande l'heure. On nous demande l'heure de la messe à la chapelle expiatoire.
10h30. Je le répète encore une fois.
10h30.
Dimanche.
Pas 11h, pas 10.
20 janvier 2002. À 10h30, à la chapelle expiatoire, il y a donc la messe traditionnelle de suffrage, enfin mémoire, de Louis XVI, qui sera présidée cette année par le Monseigneur le Prince Louis, duc d'Anjou.
Et si les gens veulent encore un petit doute, ils peuvent toujours aller sur le site internet.
Voilà.
royauté.org. Alors, il n'y a pas d'accent. Royauté.
Royaute.
Royaute.org.
Royaute.org. Et là, vous avez
royaute, nous royautons, vous royautez.
Le message qui nous dit la conférence sur les blasons vise-t-elle le public des électeurs blasés?
Ah, c'est drôle. Oui, oui, peut-être.
Oui. Et une auditrice nous dit très bonne idée, nous devrions tous inscrire en dessous des codes postaux de nos lettres la correspondance en euros, ce serait le signe de ralliement des gens intelligents.
C'est pas stupide. Oui, allez-y, alors rapidement,
première
seulement.
Oui, le samedi 5 janvier pour les rencontres culturelles de Paul Biller, le samedi 5 janvier, Louis XVII et les prétendants, rendez-vous à 14h45, Café Le Lorrain, 77 boulevard de Strasbourg, métro Gare de l'Est.
Merci ma petite Jacqueline, il nous reste 3 minutes. Alors, moi le problème que je me pose, et peut-être que beaucoup d'auditeurs sont en train de se poser la même question, c'est pour être à l'Institut de la Maison de Bourbon, parce qu'on dit, bon, il y a le duc de Beaufort, le duc de Clermont, il faut être noble, il faut être aristocrate, ou les gens comme moi, les gens simples peuvent...
Les gens simples, Daniel, Yves-Marie...
Allez, faquin, marron, disparaissez.
Non, alors vous avez trop vu les visiteurs, hein.
La question que je pose est très importante.
Effectivement, l'IMB, l'Institut de la Maison de Bourbon, est une association culturelle où, au contraire, on attend ce que les gens adhèrent. Et c'est donc 81 avenue de la Bourdonnais dans le 7e à Paris. Et il faut que les gens adhèrent, il faut que cette association continue à croître, à vivre, à se régénérer, à retrouver des jeunes cadres. Il est indispensable qu'il y ait du monde qui adhère. Et elle est là, et si les gens viennent le 20 janvier, ils verront que c'est pas pour les aristocrates dégénérés, mais c'est pour tout le monde.
L'adhésion est très chère, non?
Très, 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 très chère. Je crois qu'il y a deux niveaux d'adhésion. Un niveau où ça coûte 200 francs, et puis donc il y a un truc pour toute l'année. Et je crois que si on veut donner un abonnement de soutien, un truc de soutien, c'est 300 francs, quoi. Voyez, on tient le coup.
On devrait y arriver. Même en euros, c'est supportable.
Même en euros, c'est encore mieux.
C'est supportable.
Tout ça.
Donc je rappelle l'adresse de l'Institut de la Maison de Bourbon, auquel. Institut, tout le monde donc on demande pas.
Que c'est toute la France qui est invitée à adhérer. C'est pas pour les Parisiens, c'est pour tout le monde. Il y a beaucoup de Parisiens, c'est pour tout le monde.
Alors, Institut de la Maison de Bourbon.
Les populaires.
Comme tu disais.
Et social.
C'était du sacre. Il fallait l'acquiescement du peuple.
Ouais, c'est beau.
Mais à part ça, vous avez des conférences, vous avez. Enfin, tout ça, on voit ça sur le site.
Oui, c'est une association qui a des conférences, qui a des activités culturelles, qui restaure, qui aide à restaurer. Donc, en scène.
Alors, je rappelle, le site internet, c'est royaute.org.
Non, c'est pas attention, parce que souvent, quand on tape sur internet quelque chose, on veut toujours mettre .com.
C'est org, là.
Non, c'est org. C'est comme une organisation.
Organisation. Institut de la Maison de Bourbon, 80 avenue de la Bourdonnais, 80 avenue de la Bourdonnais, Paris, 7e. Le téléphone, c'est le 01.
Le téléphone est pas matin. De la nuit, les gens travaillent pas.
Les gens travaillent pas.
Non,
c'est 01, c'est les 35 heures. 01 45 50 20 70. Et donc, rendez-vous à tous les amis de la tradition autour du d'Anjou, donc le dimanche 20 janvier à 10h30 à la chapelle expiatoire. Merci à tous de votre visite. Merci ma petite Jacqueline. Merci Guy Le Hideux. Merci Docteur Ponce. Merci Monsieur et Marie Adeline. Merci Monsieur le Duc de Clermont-Tonnerre. Merci mon bon camarade du De Soicourt. Bonne année à tous nos auditeurs. Bienvenue dans l'Euroland. Et à la fin du mois, d'ici là, bien sûr, que Dieu
et Serge,
nous
Serge, tu vas tenir
garde
ta parole. Non, merde à l'euro. Ah bon, tu diras pas, c'est bien.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, dirigé par Daniel Amiche, avec l'assistance de Jacqueline Levenbruck et de Victoria, diffusé en direct mercredi 2 janvier 2002 de 18h à 21h.